Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction. Ravi de vous retrouver dans ce podcast 554, gentiment intitulé Entre deux polémiques, Nioh et Little Nightmares 2. Pourquoi? Parce que entre deux polémiques, nous allons vous parler de ces jeux-là. Et les deux polémiques en question, je vous fais le
C'est
sommaire
Johnny et Nioh.
immédiatement. C'est Mass Effect Legendary Edition, on va vous expliquer pourquoi, on appelle ça une polémique. Et ensuite, pour terminer, ce sera les déclarations du réalisateur d'Ori and the Will of the Wisp. Mais avant de parler de tout ça, évidemment, on va faire les présentations. Pour changer un petit peu, j'ai voulu faire dans le désordre. Et aujourd'hui avec nous, vous le voyez, nous sommes beaucoup. Ça change par rapport aux dernières semaines. Il faut dire que le déconfinement virtuel suit son cours. Et donc, nous avons Johnny One avec nous.
Bonjour.
Comment ça va depuis ta salle de classe?
Ça va très bien.
Bon,
Ça
est-ce
va
que
très
tu pourrais nous enseigner des choses en espagnol ou pas, tu
bien.
penses?
Hola, hay una
Reporter.
cosa que es en el laboratorio.
Ok, toi tu mélanges toujours l'italien et l'espagnol, c'est absolument insupportable.
On appelle ça l'espéranto, monsieur.
Ah ouais, c'est insupportable. Thomas, évidemment, est avec nous depuis la rédac.
Si, muy bien.
Voilà, là lui, il parle vraiment espagnol.
Ouais.
Et Philippe, qui pour le coup a les origines espagnoles, si je ne m'abuse.
Non, non,
Ah
mais non,
non,
c'est à peu près le même
non,
coin, mais attention.
c'est Romain. C'est Romain
Ouais, je
Mahuto,
crois
c'est
pas que ce soit le
espagnol.
même coin. Ouais.
Non,
Les
c'est pas le
fameux
même
Da
coin.
Silva d'Espagne, comme
Ouais, voilà, c'est ça.
bah, El Famoso.
Philippe, donc, qui nous parle de. Mais si, Issou. Issou, c'est bien en
Oui,
Espagne.
Issou, oui, bien sûr, c'est en Espagne, bien sûr.
Voilà, je me disais bien. Bon. Et Romain, qui est avec nous aussi, évidemment. Pour ce podcast, donc, qui eh bien, s'annonce assez déconnant, comme vous avez pu le découvrir. Avant de passer aux quatre thèmes de la semaine, puisqu'il y en a quatre, eh bien, nous allons évidemment faire un détour par le win et le fail. Et le win, cette semaine, Romain, c'est quelque chose qui te fait beaucoup plaisir, parce
Ouais, ça.
que ça fait plaisir en fait à tous les joueurs Nintendo 64 qui ont connu la grande époque de GoldenEye 007.
Alors, on parle souvent des FPS qui ont démocratisé le genre sur console. Alors, on cite souvent Doom, on cite aussi Halo sur Xbox comme étant des FPS qui ont démocratisé le genre, mais parfois certains oublient que GoldenEye a vraiment joué aussi à ce niveau-là grâce à la convivialité de la Nintendo 64, sa manière d'utiliser le stick analogique, etc., etc. Donc un grand nom du FPS qui malheureusement, à cause de diverses questions de droit qui sont assez compliquées à gérer, a pas eu le droit, enfin, eu le droit, je vais me faire tirer les oreilles par trace, qui n'a pas eu le droit
Il vient de se lever là. Il est
à, comment
rouge.
dire, à des remasters, des remakes, etc. au fil du temps. Sauf que, on sait depuis des années, chez Rare, à une époque, en fait, il y a un remaster du GoldenEye 007 Nintendo 64 original qui était en développement sur Xbox 360. Et curieusement, le projet avançait alors que la question des droits n'était pas, on va dire, n'était pas réglée. Et donc, ça a avancé quand même jusqu'à ce que la campagne solo soit terminée intégralement, que le multijoueur local soit fini aussi. Et ben, cette version-là, évidemment, n'est jamais sortie parce que, ben, pour les questions de droit dont je vous parlais juste avant, ben, ça ne s'est pas fait parce que là, il fallait évidemment régler le truc avec Nintendo qui avait le jeu original, avec Activision qui détenait la licence James Bond sur console à ce moment-là. Et aussi avec les ayants droit de la licence James Bond d'une manière plus générale. Donc il y avait tellement d'acteurs impliqués que c'était assez compliqué, ça ne s'est pas fait. Sauf que, il y a 2 semaines, il me semble, une longue vidéo de gameplay de cette version Xbox 360 annulée a fuité. Et dans le flux, on nous laissait entendre qu'il se pourrait bien que cette version fuite. Dans les mois qui viennent. Sauf que ça n'a pas mis plusieurs mois, ça a juste mis quelques jours. Et depuis la semaine dernière, n'importe qui avec un PC suffisamment puissant peut télécharger ce remaster Xbox 360 de Golden.
Ou une Xbox 360 débug.
J'allais y venir. Ou une Xbox
Parce que
360 débug, ou une Xbox 360 pucée. En fait, il y a
ça marche
plusieurs.
avec quoi? J'allais dire une JTAG, ouais.
Il y a plusieurs
Probablement.
possibilités pour y jouer, mais donc cette version de GoldenEye sur Xbox 360 est désormais disponible. Et là où c'est intéressant c'est intéressant à plusieurs niveaux, parce que avant Halo Master Chief, Halo Combat Evolved Anniversary, et ben cette version de GoldenEye Remaster, avait déjà prévu la possibilité de switcher de la version N64 à la version remaster en appuyant sur un seul bouton. C'est une option que j'adore, moi, personnellement. Je trouve ça génial de pouvoir passer de deux versions d'un jeu. Et donc là, elle est disponible dans cette version qui a fuité. Vous pouvez faire la campagne solo en intégralité, ce qui est plutôt cool. Vous pouvez jouer en local façon N64 à l'ancienne, ce qui n'est pas forcément évident par les temps qui courent et en plus matériellement parlant, etc. etc. Donc il n'y a pas, comme ce n'est pas une version finale et qu'en plus c'est un truc qui a fuité, la compatibilité multijoueur en ligne n'est pas là et les succès ne sont pas là non plus. Mais bon, vu qu'il est question de toute façon d'une Xbox Debug ou d'une version PC, bon, c'est pas très grave. Mais d'un point de vue historique et pour la préservation, etc., je trouve ça vraiment cool que cette version remaster de GoldenEye, qui était en plus à un niveau de développement quand même très avancé, c'est cool que ça sorte, parce que ça aurait été dommage que ça se perde, tout simplement. Et on se souvient quand Microsoft et Rare ont sorti la collection Rare Replay sur Xbox One, dans la liste des jeux qui étaient disponibles, GoldenEye faisait partie des abonnés absents, alors que Perfect Dark, qui est la suite spirituelle de GoldenEye, elle était bien présente, parce qu'il n'y a pas toutes ces questions de droits impliquées. Donc voilà un moyen, on va dire, de combler ce trou, combler ce vide et de faire plaisir aux fans de la N64, aux fans de James Bond, aux fans de GoldenEye.
De Pierce Brosnan en particulier, parce que la particularité de ce remaster qui n'a jamais vu le jour, c'est que contrairement au GoldenEye Reloaded d'Activision qui est paru un peu après...
Sur Wii,
absolument, mais pas que, PS3 et 360.
Il n'était pas
sorti partout. Contrairement à ça, ce n'est pas Daniel Craig qu'on retrouve à l'intérieur, il n'y a pas d'ajustements qui ont été opérés, c'est vraiment le jeu brut. Et c'est vrai que, encore aujourd'hui, ça reste un putain de bon jeu, quoi.
Ah, et ça aussi, tu fais bien de mettre le doigt dessus, c'est qu'en plus des différents acteurs dont je parlais tout à l'heure, les comédiens eux-mêmes, c'était un problème de droit à gérer aussi, parce que vous aviez les comédiens de GoldenEye qui étaient... sous contrat au moment de la sortie du jeu initial, donc là c'était un package, on va dire, mais là il fallait renégocier avec eux individuellement et en plus négocier avec les ayants droit des autres personnages de James Bond qui étaient inclus en personnages jouables dans le multi de GoldenEye mais qui n'étaient pas dans le film en lui-même. Donc vraiment un micmac de licences à gérer et à remettre au goût du jour pour pouvoir sortir le jeu à l'époque sur Xbox 360. Donc là, ça sort sous le manteau. Donc comme ça, on fait fi des différents problèmes et tout le monde peut en profiter.
Ça aurait même pu être pire au niveau des droits parce que les ennemis à l'intérieur du jeu, ce sont des employés de Rare de l'époque qui se prenaient en photo et qui se mappaient sur les polygones. Donc je te laisse imaginer le nombre de personnes dont il aurait fallu potentiellement obtenir l'accord pour que ça puisse voir le jour.
Ouais, donc une galère. C'est un peu comme en fait... C'est un peu comme si tu voulais ressortir un jeu de sport des années 90 sur une console actuelle, tu vois, par exemple. On sait que Arcade One Up a sorti une borne NBA Jam récemment avec les vieux jeux NBA Jam. Et ils ont dû renégocier avec tous les joueurs individuellement de l'époque. Et c'est pour ça que sur les bornes, ils ont, on va dire, je crois, 90% des joueurs, mais quelques-uns, ils n'ont pas réussi à les avoir. Et donc là, c'est un peu le même délire, mais avec une échelle monde, parce qu'il y a quand même moins de personnages impliqués que de joueurs en NBA, mais c'est pour ça que certains jeux ne ressortent jamais, parce que c'est tout simplement trop galère à gérer. Et financièrement, s'ils devaient payer des droits à tout le monde, vu les ventes potentielles d'un tel titre, ils ne rentreraient peut-être pas dans leurs frais. Donc,
En tout cas, tu m'as convaincu, je crois que je vais le faire.
Moi, tu vois, pour le coup, si on avait été dans un contexte normal et qu'on avait été à la rédac, etc., j'aurais essayé de le mettre sur une des Xbox Debug qu'on a au bureau, tu vois, ça aurait été intéressant. Moi, j'en ai une Xbox Debug, mais elle a Red Ring, et pour faire réparer une Debug, c'est pas évident. Donc,
Alors, tiens, une Xbox qui a le Red Ring, tu la mets au four à 180 degrés 10 minutes.
Et tu fous le feu à ton immeuble.
Non, c'est pas une blague, je vous jure, c'est pas une blague.
Les propos de Johnny n'engagent évidemment pas la rédaction de Gameblog.
Les 180. Les 180 degrés du four vont refaire fondre les composants qui se sont dessoudés à l'intérieur. En fait, en vrai, tu as une chance sur deux. Hein. Ouais, ouais. Soit ça va l'air soudé, soit ça va pas l'air soudé.
Mais ou alors tu files ça à un électricien et ça va plus.
Oui,
va
mieux, oui, hein. Oui. Mieux, mais hein. Je vous jure que le 180 degrés au four, c'est une vraie méthode et que ça fonctionne.
D'accord, mais tu
moi, personnellement, je tenterai pas.
Ouais, tu mangeras la peau ou pas avec? Tu mets quoi, des patates, des haricots verts, enfin.
Ah, il faut bien l'éplucher avant.
Ouais. Pour le coup, ça me fait penser à ce qu'ils appelaient la méthode de la serviette à l'époque du Red Ring. C'est qu'en fait, si t'avais ta console qui avait fait un Red Ring, tu l'emmitouflais complètement dans une serviette et tu la branchais, tu la faisais tourner et la chaleur que ça allait générer, justement, ça jouait sur les soudures, etc. Ça risquait moins de foutre le feu que la méthode de Johnny, mais
c'est ça. Oui, mais dans les deux cas, c'est des remèdes de grand-mère, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est une solution.
C'est le même principe que le four. Hein.
Ouais, c'est une méthode qui marche pas forcément et qui, généralement, quand elle fonctionne, c'est qu'un fixe temporaire, en fait. Ça faisait fonctionner pendant quelques temps et ensuite, ça redéconnait. Mais donc... oui, il y a des moyens d'essayer GoldenEye.
Bon, bah écoutez, tant mieux. On va essayer d'en profiter quand on pourra. Ça pourrait être sympa de se faire un petit multi dessus.
Multi à 4.
Même si les touches remappées, j'imagine que ça va peut-être pas forcément marcher comme on veut avec le stick droit. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés.
On se souvient que GoldenEye, dans les options, j'avais fait un trivia là-dessus. Vous pouvez
aller voir. Avec deux.
GoldenEye permettait de brancher deux manettes Nintendo 64 pour jouer tout seul. Ce qui permettait d'avoir un système de dual stick avant l'heure. C'était pas forcément le truc le plus facile en termes d'encombrement, mais c'était une possibilité.
Tu sais, la prise en main sur N64,
ouais, c'est pas discutable. Ah ouais. Tout le monde peut en discuter.
Ah bah, s'il y a bien quelqu'un qui est mal placé pour parler de la prise en main sur N64, c'est Thomas et sa manière totalement non naturelle de tenir la manette.
Bah, maintenant, il a des mains géantes, c'est ça qui est pratique, tu vois. C'est qu'il les a tellement étirées que maintenant, c'est...
Ah bah, comme
il y a tellement de skills que si on faisait un multi sur GoldenEye, je vous atomiserais tous, mais vous avez même pas idée.
Ah bon ?
Moi, je jouais à Duke Nukem à l'époque.
Moi,
je
suis pas comme Mario Kart, mon cher Plume.
Ouais, mais j'ai encore une photo de toi sur Bomberman, je sais pas, je me demande. Je me demande
Rappelez-vous qui a gagné à Bomberman. Hein. Rappelez-vous qui a gagné à Bomberman, déjà, premier truc. Ouais. GoldenEye, non, c'est moi qui vous défonce tous. Voilà, non. C'est tout.
D'accord, attends, juste les règles. On est d'accord ? Pistolet d'or, pas de radar, on est d'accord ?
Exactement.
Peu importe.
Ah ok, d'accord, peu importe.
Thomas, tu peux lui-même lui rajouter les yeux bandés. Et le...
ouais, exactement. Thomas, il va jouer avec Code Job et puis c'est tout. Je l'imagine trop. Alors, merci pour ce win, évidemment. On va passer au fail de la semaine. Le fail de la semaine est assez intriguant. C'est moi qui vais vous en parler. Ça concerne Silent Hill de près ou de loin. On ne sait pas encore exactement, mais ça concerne de sources sûres. Un certain Akira Yamaoka, vous savez, Akira Yamaoka, c'est le compositeur historique de Silent Hill. C'est lui qui s'est occupé des musiques et du sound design sur les premiers épisodes de la série, qui est devenu producteur par la suite de la série. Et dans la sortie avec la sortie de The Medium, il a été invité par différents médias, évidemment, pour des interviews. Et il y a un site, une chaîne YouTube, pardon, Al Hub, qui l'a invité il y a quelques jours. Et sur cette chaîne... dans laquelle il parle évidemment de The Medium, il y a un moment, l'intervieweur lui pose la question de savoir s'il a un autre projet jeu vidéo en cours et si on va avoir des nouvelles prochainement. Et là, avec traducteur, moi j'avoue que mon japonais est un peu rouillé, donc je n'ai pas bien compris si c'était exactement ce qu'il disait, mais en tout cas, avec traducteur, ce que semble dire Yamaoka, c'est « Je crois que vous aurez droit à une annonce cet été et je pense que c'est ce dont vous espérez entendre parler. » Alors. Quand on entend Akira Yamaoka dire ça, normalement, il n'y a pas d'équivoque. Le truc que tous les fans attendent de sa part, ce n'est pas forcément Shadows of the Damned 2, ça serait plutôt un Silent Hill, si on se réfère à ce qu'il dit. Donc, du coup, ça commence à popper un peu partout sur Internet, les gens s'enflamment, dont moi. Voilà, je vous le dis, je me dis, ah, ça peut être cool s'il s'y remet. D'autant qu'il y a pas mal d'indices concordants ces derniers temps qui laissent penser que peut-être la licence est de retour. Si ce n'est sous forme de remaster, peut-être un nouvel épisode. Il y a des rumeurs qui paraissent à droite et à gauche à ce sujet. Il y a l'ancien créateur de la série qui a fondé son propre studio, qui travaille sur un jeu d'horreur. Bref, on a l'impression que tout est aligné. Et au moment où ça commence un peu à prendre, eh ben, l'interview a disparu. Al Hub a retiré l'interview, il a fait passer la vidéo en privé, il s'est excusé en disant bah voilà, merci pour votre soutien, on a publié l'interview, mais il nous a été demandé de retirer le clip. Du coup, on l'a supprimé. Et là, il a été demandé de supprimer le clip. Il n'y a pas de nom qui est lâché. Et l'histoire continue, du coup, parce que tout le monde se dit oh, c'est forcément Konami. Mmh. Et oui, évidemment. Parce que Konami, c'est les méchants depuis quelques années, tout le monde le sait. Et pourtant, Konami a nié. Voilà, ils ont envoyé un message, un représentant a envoyé un message à nos confrères de Vidéo Gamer qui dit que ce n'est pas eux qui ont demandé à retirer la vidéo. Si j'ai un avis personnel, je pense que c'est Yamaoka qui s'est rétracté en disant « Merde, j'aurais pas dû dire cette connerie, ça va me foutre dedans » par rapport aux personnes avec lesquelles il est peut-être en train de travailler justement sur un Silent Hill.
En soi, il n'a rien dit. Hein.
En soi, il n'a rien dit.
Le mec ne fait que teaser.
Après, quand tu dis « Je pense que c'est ce dont vous espérez entendre parler »,
oui.
Chacun y projette ses propres envies et ses fantasmes.
Après, c'est pas Shadow of the Damned 2.
Ouais, ça c'est certain.
Mais c'est là voilà. Où tu vois le problème avec le niveau de secret qui entoure le jeu vidéo et tout. Même si une déclaration aussi vague que celle-ci, ouverte à interprétation, qui ne mentionne rien explicitement, même ça, ça suffit à poser problème, etc. C'est complètement fou. On marche sur les mains avec toutes ces histoires de secrets et d'embargo et de tout
mais
ça.
Mais tu sais à quel point les studios japonais particulièrement aiment garder la mainmise justement sur la chronologie qui a été planifiée longtemps à l'avance, etc. Et bon, ça, c'est un petit grain de sable qui potentiellement vient rouiller la machine, quoi.
Oui, mais comme tu l'as dit, hein, Thomas, c'est après ce qui en résulte, c'est plus des théories et des hypothèses.
La spéculation.
Pour moi, pour le coup, me paraît mais genre implacable. Je vois pas comment il pourrait parler d'autre chose, mais ça reste pas des déclarations directes, tu vois, ça reste un teasing. Mmh. Je sais pas comment vous le voyez, mais moi j'ai du mal à comprendre, même si on sait que les entreprises japonaises ont un vrai problème avec le secret et avec les notions de trahison. Hein. On peut entendre parler de Nintendo et Netflix ces derniers temps, qui visiblement ont eu un petit différent sur la notion de teasing aussi. Et de fuite, mais là, c'est quand même assez fou, surtout que ça faisait des vues à ce cher Al Hub qui, visiblement, n'était pas mécontent d'en avoir.
Est-ce qu'il n'y a pas un effet Barbara Streisand, du coup, tu vois, du fait qu'il l'ait retiré, tout le monde l'a vu, et du coup, on en parle encore plus du fait qu'il y ait eu une déclaration qui, maintenant, n'est plus accessible. C'est presque pire en termes de maîtrise de communication, finalement.
Ouais. Après, il faudrait voir plusieurs choses. Déjà, ça aurait été bien qu'il explique qui a demandé la suppression de la vidéo. Mmh. Être plus clair à ce niveau-là. Et il faudrait aussi avoir une traduction peut-être plus directe de ce qu'a dit Akira Yamaoka.
Revenir à la version originale, ouais.
Le téléphone arabe, là en l'occurrence sans mauvais jeu de mots, ça peut nuire. Les Japonais, des fois, avec des choses très vagues, ils peuvent. Hein, c'est pas parfois aussi direct que nous on peut l'être quand on s'exprime. Donc faudrait voir vraiment ce qu'il a voulu dire en japonais à la base. C'est peut-être une mauvaise traduction aussi. Enfin, il y a plein de possibilités et là on manque vraiment de précision et d'explication et de contexte pour vraiment savoir de quoi il est question.
Mais bon,
après, s'il a bien dit ce qui a été relayé, effectivement il n'y a pas 36 interprétations possibles. Mais après, c'est un nouveau, enfin, Silent Hill, faut voir avec qui, faut voir comment, faut voir quoi. Enfin, là aussi, ça ouvre tellement sa phrase, même si elle a été dite comme ça, il y a tellement de possibilités que là, une fois encore, c'est... Est-ce que ça méritait vraiment une suppression ?
Ouais. Ouais, j'en ai pas l'impression. Mais vous, d'après vous, là comme ça, au doigt mouillé, un Silent Hill annoncé cette année, vous y croyez ?
Non.
Potentiellement, ouais.
Bah, parce cet que été, moi, ça pourrait arriver, bah, ouais.
Moi, je.
Pity, ça fait 7 ans, ouais, je sais pas.
Là, moi encore, ce qu'on m'avait dit du côté de chez Konami, c'est qu'il y avait des grosses licences connues sur lesquelles ils travaillaient, mais qu'il fallait pas s'attendre à ce que ça soit annoncé. Enfin, la dernière fois que j'ai parlé de ça, moi, c'était. C'était quoi, l'été dernier, ou peut-être l'automne dernier. On m'avait dit que quand il y aurait du mouvement chez Konami, ça serait pas avant un moment. On m'avait plus laissé entendre, plus fin d'année, fin 2021 au minimum. Donc à voir, peut-être que les choses ont été, les choses ont changé depuis. En plus, moi, on m'avait pas parlé de Silent Hill explicitement. C'était
après, ça peut arriver en plusieurs temps. Konami, c'est tout. Tu peux très bien avoir un remaster ou une compilation, quelque chose qui prépare le terrain avant l'annonce d'un véritable nouvel épisode en bonne et due forme.
Et là encore,
bon, on sait qu'il y a un E3 dématérialisé cet été. Donc, un moment propice aux annonces de la part des différents éditeurs de l'industrie, ça pourrait tout à fait se glisser là-dedans.
Un E3 dématérialisé, un Summer Game Tiep aussi, et il y a plein d'occasions potentielles. Mais là encore, c'est tellement vague que...
Voilà. Ouais, ça fait réfléchir, comme on dit.
Tellement vague qu'il faut surfer dessus. T'en parlais, Romain, effectivement, Philippe. Cette histoire de communication, c'est toujours assez délicat avec les Japonais, parce que... Tu parlais tout à l'heure de téléphone arabe, c'est exactement ça. Tu as toujours un média américain qui relaie, puis tu as des relais qui se font comme ça. Je prends l'exemple de Final Fantasy VII, on en parlait tout récemment parce que on évoquait le fait qu'il puisse y avoir des informations qui seraient révélées pour le concert de la fin de la semaine, je crois. Du 13 février. Je lisais ce matin chez nos confrères de Gamergen, justement, qui parlait d'une nouvelle traduction de ce qu'aurait dit, alors je ne sais plus, c'est Motomu Toriyama, je crois.
Oui.
Et c'est ça. Selon cette nouvelle traduction, ce serait il y a aussi un programme bonus dans lequel je participe et parle un peu de Final Fantasy VII Remake. Donc voilà, ça permet de nuancer un peu.
C'est ce qu'on avait mis hier, parce que là, pour le coup, je me suis fait chier à essayer de trouver le moyen de traduire moi-même. Et c'est ce qu'il dit, des annonces liées à Final Fantasy VII Remake. Ouais. Donc, des choses liées à Final Fantasy VII Remake.
Ouais,
donc,
annonce.
Ça peut être des annonces.
C'est toujours ça, en fait. On sait pas.
Après, il y a eu la vidéo de Yoshinori Kitase, le 6.
Le PC derrière.
le PC derrière qui clignote bien, plus la vidéo d'intro de FF7 Remake, je pense que.
Bon, là, par contre, ce qui est pratique, c'est qu'on sait que le 13. On aura la réponse. On sait quand ça va tomber ou pas, mais en tout cas, on est fixé déjà sur la date.
Mais tu vois, un autre cas récent d'enflammade générale qui le méritait pas forcément, c'est quand Sega a fait son stream pour les 15 ans de Yakuza, et ils avaient dit, oui, annonce, on va parler de nos nouveaux projets, etc. Et en fait, à la toute fin du stream, ils ont juste dit, Yakuza 7 sort sur PS5 hein, en mars, ok, on le savait déjà. Et en plus, oui, on confirme, on travaille bien sur un nouveau jeu. Genre, sachant qu'ils sortent un jeu par an depuis 15 ans, on s'en doutait un peu, tu vois. Donc, parfois, des teasings, les Japonais n'entendent pas forcément le teasing de la même manière que les Occidentaux l'entendent. Donc, parfois, juste une petite info, une petite phrase glissée par là, ça justifie un teasing, ce que des Occidentaux ne feraient pas forcément. Parce que quand tu teases, ça veut dire que tu vas faire une grosse annonce. Chez eux, ce n'est pas forcément ça. Là, ça se trouve, Final Fantasy VII, ils vont juste balancer un artwork inédit ou un truc dans ce genre-là, tu vois, c'est pas...
C'est possible. C'est tout à fait possible, ou un morceau remixé, ou n'importe quoi, tout est possible, on verra ça samedi 13 février à partir de 9h du matin. On va passer maintenant, au gros du podcast avec le premier thème. Et le premier thème de la semaine, ça fait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'Internet. On parle de Mass Effect Legendary Edition parce qu'il va y avoir un changement qui n'avait pas été forcément donné à Johnny Wan quand il a vu le jeu. En même temps, est-ce que c'est vraiment si important ? On va en débattre pendant quelques minutes puisque le directeur du projet Mass Effect Legendary Edition, donc qui est une compilation des trois premiers volets de Mass Effect remasterisés, mais genre bien remasterisés, comme nous avait dit Johnny la semaine dernière, il va y avoir des petits changements de ton, des petits changements d'approche qui sont largement, pour moi, justifiés, mais on va en discuter, évidemment, à savoir qu'il y a des plans. C'est l'exemple qu'il a pris en particulier, mais il y en aura sûrement d'autres de changements. Des plans avec Miranda Lawson, donc, qui était un des personnages phares de Mass Effect 2, qui vont être changés. Ces plans, normalement, j'imagine que Puffy, elle doit vous les montrer parce qu'il a dû aller les récolter et se faire plaisir au passage dans la vidéo. C'est des plans de Miranda, donc quand elle vous parle... Par moment, on rappelle que Miranda dans Mass Effect 2, Johnny, c'est une femme qui est génétiquement parfaite.
Elle a été créée in vitro. C'est un être humain créé artificiellement.
Et donc, elle est génétiquement parfaite. Et exact. Une des choses qui permet de le voir, le savoir, pardon, c'est son physique qui est on ne peut plus avantageux. Je rappelle, c'est Ivan Stavrovski. Stavrovski, oui, c'est ça. Stravoski, qui l'interprète. Donc, c'est un personnage d'une beauté assez insolente qui va prendre des poses lascives pendant qu'elle vous parle, pendant tout le jeu, qui va draguer le Shepard mâle comme c'est pas permis. Et donc, il y a des plans par moments où c'est un peu exagéré, Johnny. De quoi on parle exactement ?
Tu me laisses le...
bah, bien
la,
sûr.
Difficulté de...
la difficulté. De...
Ouais, bien sûr. La difficulté, oui, tout à fait. De son postérieur, en fait, hein, tout simplement. Ça devenait même un peu grand guignolesque hein, dans les cinématiques du 2, c'est-à-dire que dès qu'elle était introduite dans une scène, même qui n'était pas une scène de romance avec Shepard, où par exemple elle était en train de parler avec l'homme trouble, bah, la scène elle s'ouvrait sur quoi ? Sur un plan sur ses fesses. Pourquoi ?
Bah, parce qu'elles sont chouettes.
Parce qu'elles sont chouettes, et puis pour flatter la rétine du joueur, j'imagine. Voilà. Ça, c'était donc il y a 10 ans. Mm. Voilà. C'était il y a 10 ans dans Mass Effect 2. Je n'ai pas la date exacte en tête, mais oui, c'était dans ces eaux-là. Et donc aujourd'hui, oui, on nous vient et on nous annonce et on nous dit que tous ces plans de caméra-là, qui sont un peu abusés, qui n'ont pas grand-chose à faire dans le jeu. Comme je vous dis, quand Miranda va parler à l'homme trouble, que vient faire le plan sur ses fesses dans la cinématique.
Quand elle parle de son passé ou de sa sœur,
voilà,
de son père, c'est-à-dire de ses rapports à son père, bah tiens, ça fait
à
un
l'époque,
ça fait
à l'époque, Power. Il y a même des joueurs qui avaient appelé le jeu Ass Effect.
Non, mais on est sur un décalage qui est du niveau, j'exagère à peine, on est sur un décalage avec ce postérieur qui est du niveau des musiques de Deadly Premonition, par exemple, du premier épisode. Vous voyez, donc on a une scène super sérieuse, et paf, des fesses. Bon, certes, ce n'est pas la vision la plus désagréable du monde, surtout si on aime ça, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure des choses à faire ?
De l'essai, tu veux dire ?
Oui, de le laisser. Oui.
Ah oui, bah non, puisque eux-mêmes ont décidé qu'il y en avait, enfin que c'était complètement what the fuck, et qu'il était temps de le changer.
Exactement.
Oh. Bah, et toi, ton avis là-dessus ? Alors, tu penses qu'il faut
le changer ? Je pense
en tant que fan, je pense qu'il fallait le changer.
En tant que fan de Miranda aussi, hein, même. Hein, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est quelque chose qu'il fallait changer puisque ce n'était pas vraiment de très bon ton déjà à l'époque, et ça l'est encore moins aujourd'hui. Hein. J'ai pas forcément besoin de vous rappeler tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ça renvoie un mauvais message, en fait. Voilà. Mmh. S'ils avaient laissé ça, ça aurait renvoyé un mauvais message sur la condition de la femme, sur tout ce qui peut se passer en ce moment, les hashtags MeToo, les tout. Je mets tout dans le même panier. Voilà. Et bien, du coup, en supprimant ces passages-là, on rentre un peu dans le moule. Voilà. Mmh. Et on devrait ne plus choquer personne, en fait, tout simplement. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on choque quelqu'un, je pense qu'on peut peut-être faire un petit travail sur soi.
Voilà. Oula, je suis tellement pas d'accord avec toi, Johnny. je pourrais pas être moins d'accord avec toi. Regarde jamais South Park. Hein.
Ouais. J'aime beaucoup South Park.
Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que la façon dont c'est amené. Voilà. Là, quand c'est un truc de ce style-là, c'est pas un épisode de South Park, c'est censé être sérieux les moments où on voit
Exactement, et ça rend le jeu un peu nanardesque en fait.
Mm-hmm. En plus,
bon, en fait, le vrai problème, c'est la façon dont ça a été monté en épingle direct par la communauté. En fait, moi, ce qui me choque le plus dans toute cette histoire, personnellement, moi qui attends pareil énormément cette trilogie, et pour le coup, je suis pas un fan de Miranda, mais voilà, c'est chacun est parti en croisade quoi. C'est-à-dire que vraiment, sur n'importe quel sujet, il n'y a pas de discussion possible. C'est le camp des puritains contre le camp des, de ceux qui sont contre, soi-disant, la cancel culture ou quoi. Et en fait, il n'y a pas de débat possible. Et alors que de base, je trouve que les arguments, entre guillemets, des deux camps peuvent se tenir, peuvent s'entendre. Tu vois, je peux comprendre. Il y avait ce débat à l'époque de Star Wars. Alors, c'est pas le même sujet, hein, mais c'est pas exactement le même sujet. À l'époque de Star Wars, quand George Lucas avait modifié certains éléments de la première trilogie, voilà, le fameux Han shot first, etc. Donc, je peux comprendre qu'on ait envie de préserver, certaines, mais en même temps, je peux comprendre aussi que, comme tu disais, Johnny Wan, le monde évolue, on a besoin de, on n'est plus obligé de rester dans des, dans une vision voilà, de la mise en scène un peu nanardesque et surtout une image, représenter une image assez dégradée des femmes, surtout même si elles sont de pixels. Mais, ouais.
D'autant que j'ajoute que les versions originales existent toujours. Hein. Si vous voulez
oui,
avoir
bon, voilà,
le boule de Miranda en gros plan, vous les reprenez. Ouais. C'est vite
mais s'il n'y a pas forcément accès.
C'est vrai. C'est vrai, mais...
Je vois que Thomas veut parler, je vais laisser parler, mais après j'aurai des trucs à dire aussi. Vas-y, Thomas.
Ouais, vas-y. Là, Thomas, t'as plus son là,
plus, Thomas, on t'entend plus.
Oh, autant pour moi, excusez-moi, ouais. Mais comme ça, au moins, je ne vais pas parasiter votre discussion. Oui, à vous entendre, puisque moi, je n'ai pas fait le jeu à l'époque, finalement, la direction de la photo qui a été choisie n'avait pas véritablement de finalité. Ce n'était pas pour dire quelque chose, ce n'était pas pour exprimer un point de vue caché ou quoi que ce soit, c'était gratuit finalement.
Certains disaient que c'était pour ceux qui défendent les conservationnistes défendent l'idée que c'était pour montrer que Miranda est une femme fatale. Donc c'est pour montrer la perfection entre guillemets de.
Il y a plein de manières de le montrer du coup. Hein. Voilà. En soi, ah, oui, pourquoi pas. Mais
ils sont surtout fait plaisir, ouais.
Oui, voilà. Donc je suis d'accord.
Finalement, on se débarrasse d'une feature qui ne servait pas grand chose dans le propos global du jeu. Donc,
On connaît la subtilité de certains créateurs de jeux et même créateurs d'une manière générale. Tu vois, moi, j'ai pas joué à Mass Effect, mais ces scènes-là, j'en avais entendu parler. Et des trucs comme ça, déjà il y a 10 ans, moi, tu me mettais ça face à moi, ça me faisait lever les yeux au ciel et soupirer parce que c'est d'une lourdeur incroyable. Tu sais, c'est un peu comme si tu regardes un film Thor. Thor, et parfois, t'as, entre deux scènes, tu as un passage où Chris Hemsworth va retirer son t-shirt et sortir de la pièce. Ça n'a strictement aucun intérêt dans le récit. Ça n'a y a aucune justification et tout. C'est juste du fan service. Tu as une scène où, voilà, où, comme il est bâti comme un dieu grec, bah, voilà, il est torse nu pour faire.
Ça fait plaisir,
Pour faire plaisir.
Ça fait plaisir.
Mais c'est, là, et là, c'est pareil. Ça fait plaisir à un certain public. C'est lourd. C'est naze, mais le problème, comme le disait Philippe, c'est que d'un côté comme de l'autre, les gens qui participent au débat sont pas subtils eux-mêmes, en fait. Il y a aucune nuance dans les propos, et donc c'est impossible que les deux camps s'entendent sur un juste milieu ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils sont tellement remontés d'un côté comme de l'autre, ils partent en guerre chacun pour leur paroisse, que on en arrive à des débats de sourds et c'est totalement stérile et c'est inintéressant. Par contre, tu vois, autant je trouve que le plan d'origine avec les fesses, etc., je trouve ça extrêmement lourd et que ça n'a aucun intérêt, que répondre aveuglément au censeur et au bien-pensant, etc., ça m'énerve aussi. Tu vois, moi, je suis un peu entre les deux et je suis agacé par cette situation qui, je trouve,
extrêmes, quoi. Bien sûr. Ouais. Mais personnellement, à titre personnel, pourtant je suis un grand fan de J.J. Abrams, mais les lens flares, l'abus de lens flare dans le trailer m'a bien plus énervé que l'abandon des fesses de, enfin que la entre guillemets censure des fesses de Miranda. Donc
le recadrage.
Le problème, c'est que cette situation là, elle enfonce les deux camps dans leurs extrêmes. Ça ne fait que les gens qui sont pour ces trucs-là et qui ont l'impression d'être censurés, ils vont être encore plus remontés. Et les autres qui veulent supprimer tous ces trucs-là ont l'impression qu'on les entend et qu'ils auront forcément raison. Donc ils vont aller de plus en plus vers ce genre de trucs. Ça va nous mener à quoi, ces trucs-là?
Peut vraiment parler de censure pour un truc comme ça?
Non, ceux qui sont contre parlent de censure.
C'est une légère auto-censure.
Mais le truc, c'est que je me dis, c'est quoi la prochaine étape? Parce que on sait, par exemple, les films ressortent régulièrement de la VHS, ils sont passés au DVD, ils sont passés au Blu-ray. Maintenant, ils passent à la VOD. Et donc, si on va sur ce chemin-là, ça veut dire quoi? Bientôt, sur Netflix ou Disney+, etc., on aura des versions des films où les plans considérés comme problématiques ou abusés, ils seront totalement supprimés, etc. Enfin,
c'est déjà le cas.
Tu parles de Disney, c'est déjà le cas. Ils ont viré les Aristochats et je ne sais plus quel est l'autre
film. Peter Pan, je crois.
Seulement pour les avec les Indiens.
Parce qu'il y avait des trucs soit racistes, Aladdin, soit sexistes, je ne sais plus.
Non, mais t'inquiète pas, moi, je suis sur Disney+, et ma fille, on lui montre des classiques de Disney en ce moment. et j'ai voulu lui montrer, on a voulu lui faire regarder Aladdin et on le trouvait pas parce qu'elle a un profil enfant et on ne trouvait pas Aladdin. Il a fallu se mettre sur un profil adulte et effectivement là il apparaît et t'as un message d'intro, etc. Je trouve ça complètement débile, mais enfin bref, ça c'est...
Après, oui, ça se non. fait de retoucher oui les œuvres. Hein. Dans l'histoire récente, on a quand même pas mal d'exemples. Là, le seul truc, pour moi, la différence, c'est que le recadrage, parce que c'est un petit peu ça qui est en train de se passer, il arrive très peu de temps, finalement, après la sortie de l'œuvre originale, et peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a moins de recul là-dessus, parce que si on pense au BD d'Hergé, au roman d'Agatha Christie, il y a plein de choses qui, avec le recul, n'étaient pas forcément très habiles et ont été modifiées a priori à juste titre.
Plutôt que de supprimer...
ils étaient 10, c'est choquant quand même. Hein. Ah bon.
De quoi ?
Je dis ils étaient 10, c'est choquant quand même.
Mais voilà, c'est l'idée. C'est pas directement parler de ça. Il y a des choses qui nécessitent avec le temps d'être modifiées. Alors, je vais poser la question. À la limite, est-ce que le fait de proposer la version originale ou une version Director's Cut pour la trilogie Mass Effect n'aurait pas
peut-être...
Ou Director's Cut, si tu veux.
Tous les faire.
Mais est-ce que ça n'aurait pas pu contenter les deux parties globalement et puis enterrer l'affaire et on n'en parle plus quoi.
Tu vois, pour le coup, plutôt que de supprimer et de pas laisser le choix, et c'est en fait c'est un peu le côté on t'impose ce que tu dois voir et ce que tu dois accepter de voir, etc. Moi je préfère à la rigueur la façon de faire de Disney+, de mettre un message d'avertissement ou alors pour rappeler les choses, remettre les choses dans leur contexte. C'est ce qu'a fait Sega avec les remasterisations de Yakuza, parce qu'il y a des scènes qui, avec notre regard de maintenant, tu te dis ouais, ça c'est un peu moyen, fait truc. Et donc ils mettent un avertissement au début, genre on rappelle que le jeu se passe en telle année, il est sorti à telle époque, et donc des choses qu'on pouvait peut-être montrer à l'époque ne sont plus perçues de la même manière aujourd'hui. Je préfère ça, ou alors dans Mass Effect par exemple, au début du jeu tu choisis est-ce que tu veux voir la version d'époque sans aucune altération dans la mise en scène, etc., ou la version 2021 avec plus adaptée aux sensibilités de certains.
Ouais, mais on parle quand même que juste de plans qui durent même pas deux secondes. Ouais. C'est ça le truc.
Ouais,
Et ben alors, ça peut quand même difficilement dénaturer une œuvre.
Non, mais c'est le principe.
Ça peut la rendre plus sérieuse là pour le coup.
C'est pas le... Tu vois, une fois encore, moi, je trouve que ces plans sur les fesses et trucs comme ça, je trouve ça d'une lourdeur.
Ouais, bien sûr, j'ai compris, mais...
Mais c'est le principe. Et moi, en fait, il y a un truc qui m'a toujours agacé, aussi loin que je remonte, c'est m'imposer comment je dois penser, comment je dois vivre, etc. Je suis assez intelligent pour faire la part des choses. C'est pas parce que j'ai vu un plan lourd sur des fesses pendant deux secondes que ça va faire de moi le plus gros beauf sexiste du monde aussi, tu vois.
Oui, mais tu sais que l'éditeur aura toujours le dernier mot de toute façon. Et finalement, c'est ce qui va se passer.
Mais après, pour les joueurs qui vont le découvrir là, ce sera peut-être une occasion de pas lever les yeux au ciel, justement. Et voilà, c'est aussi peut-être pour ça.
Merci EA et merci BioWare. Merci EA, surtout, on sait, entreprise dont la moralité est absolument irréprochable. Merci de me protéger et de nous protéger, nous pauvres esprits fragiles et faibles, qui pourrions être totalement choqués et transformés en bêtes sexistes à cause de ce plan sur les fesses de deux secondes.
Bah vas-y Johnny One après.
Moi en fait c'est la conclusion. Quand on arrivera dessus je prendrai la parole.
Les loopbox, pas de problème.
D'accord. Non, je voulais juste dire, alors en plus c'est pas anodin que ça tombe sur BioWare parce qu'il y avait déjà eu à l'époque de la sortie d'Andromeda des personnes qui s'insurgeaient, qui aient des personnages aux cheveux de toutes les couleurs, qui aient plusieurs, on va dire que... Voilà, toutes les sexualités soient représentées dans le jeu. Il y avait je crois même qu'il y avait eu des développeurs, ou je sais plus à quel niveau, chez BioWare, qui avaient été harcelés par justement des gens sur Twitter à cause de ça. Donc, c'est vrai que BioWare, déjà avec Andromeda, ne jouit pas
d'une bonne image, quoi.
Ouais, d'une bonne image de la part des joueurs qui justement sont contre tous ces éléments qui visent à nous amener vers une société plus progressiste. Donc voilà. Et là, je cède la parole à Johnny One, du coup.
Ouais, qui a préféré s'éclipser parce que, à mon avis, il doit avoir des élèves qui arrivent.
Voilà. Non, c'est bon, j'arrive.
Johnny One, ta conclusion.
Ouais, c'est une conclusion là-dessus. C'est, eh, regardez, les fans de Mass Effect, ils nous cassent les pieds avec les fesses de Miranda, ils nous cassent les pieds avec Andromeda, ils nous cassent les pieds avec l'Extended Cut. Ils sont vraiment relous. Hein. Voilà, ouais. C'est tout.
Et t'es dedans, non?
C'est une belle. C'est
oui,
une
bah oui, je suis dedans, oui.
Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait.
Bon, en tout cas, on verra si on prend toujours autant de plaisir à jouer à Mass Effect quand la Legendary Edition sortira le 14 mai. C'est ça, Johnny Wan?
Tout à fait.
Voilà. Vous ne me voyez plus pendant une semaine après. Hein.
Je vous le dis. C'est vrai? Une semaine,
ben ah ouais, non, vraiment, je suis dessus. Mais
on a l'habitude de
faire le premier, de commencer un petit peu, et puis ouais.
Ouais. Une semaine, c'est pas beaucoup, je trouve, hein, pour faire les trois, mais bon. Comme tu veux. Allez, on va passer au thème numéro 2. Le thème numéro 2, qui est donc, eh bien, Nioh, un jeu que tu connais bien, Nioh.
Exactement, la Nioh Collection qu'on a testé cette semaine sur PlayStation 5. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la Nioh Collection? Ben, c'est Demon's Souls.
Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Alors, c'est Demon's Souls, c'est Bloodborne, réunis ensemble. Voilà, tout va bien.
Le mec fantasme sa compilation idéale.
Non, c'est les deux premiers épisodes de Nioh, en version remastered à destination de la PS5, donc, et en complète édition. Donc, ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire que bon, on a refait un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, hein, les graphismes, et on a mis tous les DLC. Donc, on a les deux jeux, les trois DLC par jeu, et on a, il gagne son appellation remastered grâce à de nouvelles options de 4K et de 120 FPS. Alors ça, c'est si vous avez l'écran compatible à la maison, bien évidemment. Si vous n'avez pas ça, vous restez en 1080p, et là, le jeu tourne un peu mieux que sur PS4, que ce soit le 1 ou le 2, puisqu'on ne vous demande plus de choisir entre graphisme et performance. Tout va tourner à fond dès le départ. Alors, le 120 FPS, bah forcément, c'est génial, hein, ça ajoute beaucoup de fluidité à un jeu qui l'était déjà beaucoup. La 4K ajoute beaucoup de détails, mais il faut bien savoir quand même que visuellement, bah, le jeu est commence un tout petit peu à dater. Hein. Nioh 2, il est sorti l'année dernière. Mais c'est du jeu de PS4, quoi. Et ça se voit que c'est du jeu PS4. Si on compare, je sais pas, bah, un jeu qui est pourtant pas terrible, hein, c'est Godfall, Nioh et Nioh 2, ils ont quand même un style graphique qui est inférieur à celui de Godfall, tout simplement. D'accord.
Il faut donc dire qu'à l'époque, même le premier Nioh n'était pas un foudre de guerre non plus. Quand il
non,
est sorti,
c'était pas un foudre de guerre. Le 2 a un petit peu amélioré la formule. C'était pas un foudre de guerre non plus. Mais grâce à sa direction artistique, surtout à l'époque, il arrivait à franchement s'en sortir. Hein, parce que faut le dire ce qu'il y a, les décors, les monstres, tout ça, c'est très beau. Hein, c'est très beau, très, très charmant. Le Japon féodal, toujours. Donc, en termes graphiques, cette compilation, si vous avez les écrans compatibles, c'est cool, vous pourrez avoir 4K 120 FPS. Si vous n'avez pas l'écran compatible, il faudra vous contenter d'un jeu qui tourne à fond et c'est déjà pas mal. Maintenant, ouais, franchement, pour de la PS5, sortie telle qu'elle, sans vraiment aucune retouche graphique, ça a l'air un petit peu vieillot. Voilà, c'est un petit reproche qu'on va pouvoir lui faire visuellement à cette compilation. Voilà, c'est à peu près le seul d'ailleurs qu'on pourra lui faire. Parce qu'en termes de gameplay, c'est génial. Hein. Franchement, on a deux jeux qui sont, je le pense, c'est mon avis, parmi les meilleurs clones de la saga Dark Souls. Voilà, il y en a plein qui s'y sont essayés. Hein. Mais la Team Ninja, c'est, je pense, ceux qui ont le mieux réussi à copier la formule From Software. En plus, à donner une vraie identité à leur jeu, avec le Japon féodal, tout ça. Les monstres, les yokai, les oni, toutes ces choses-là, tout ce folklore japonais qu'on va retrouver dans le jeu, qui est vraiment magnifique. Je vous disais, en termes de gameplay, c'est une vraie réussite. C'est-à-dire que ces deux jeux sont des monstres dans le domaine du Dark Souls-like. Ça fait partie de ceux que j'ai le plus aimé après les jeux From Software, si ce n'est pas ceux que j'ai le plus aimé. D'ailleurs,
et
je pense que...
Ouais.
Ah oui, c'est aussi ceux que j'ai le plus poncé, ça c'est clair, net et précis.
Un accrochage de wagon là un petit peu, j'étais pas du tout dans la conversation, j'étais parti à côté, je reviens, paf, je sais exactement de quoi il parle, c'est extraordinaire.
Il eût été de bon goût de ne pas le faire remarquer justement.
en vidéo ça va pas être possible Thomas, donc voilà, je suis obligé de le signaler.
C'est poncé en long, en large, en travers. Alors, ouais. Ça c'est rigolo parce que les jeux donc, vous proposent, quand vous avez déjà joué à la version PS4 du jeu, de charger votre sauvegarde sur PS5. Si vous le faites, vous reprenez la partie où vous en étiez. Si vous avez déjà joué au jeu, ça a peu d'intérêt puisque vous avez déjà terminé votre partie. Par contre, c'est assez amusant, ça déverrouille tous les trophées d'un coup. Voilà. Donc, j'avais le platine de Nioh 1, j'ai eu le platine de Nioh 2. Il a fallu que je refasse quelques trucs quand même. Tout ne se déverrouille pas d'un coup. Mais 2 heures après, j'avais de nouveau un autre platine avec un autre 100%. Voilà. Donc, un système de partage de sauvegarde, ça c'est cool. Et vous pouvez aussi Il y a un système cross-buy. Si vous avez Nioh 2 sur PS4, vous pouvez l'avoir gratuitement sur PS5. Il suffit de mettre à jour. Alors, si vous aviez la version disque, il faut une console avec un disque. Par contre, pas fou les mecs, ils n'ont pas offert Nioh 1 en cross-buy. Parce que je vous rappelle, Nioh 1, il y a quelques années, il avait été offert sur le PlayStation Plus. Ce qui veut dire que s'ils avaient offert la mise à jour gratuite PS5 de Nioh 1, ils n'en auraient pas vendu beaucoup, clairement. Puisque la majorité des joueurs auraient fait la mise à jour gratuite via PS Plus. Donc non, franchement, cette compile-là, elle est pas mal. En termes graphiques, c'est un peu feignant. Voilà, c'est dommage. Il n'y a que le 4K 120 FPS. On a deux jeux qui sont vraiment extra, extra, extra. Donc, si vous voulez faire les deux à 100%, c'est plus de 1000 heures, hein, je pense. Voilà. Si on veut faire les deux platines avec les 100% de trophées, juste les deux platines, 200 heures. Les deux platines avec les 100% de trophées de DLC, vous en avez pour 500-600 heures. Et si vous voulez vraiment finir les deux jeux à fond avec tous les New Game Plus, c'est avec les deux, je pense, 1000 heures à peu près.
Ouais. Donc
il y a vraiment de quoi faire. Hein. Ouais, non, il y a de la durée de vie. Hein. Il y a vraiment de la grosse, grosse durée de vie. Donc ça, c'est pas mal. Il y a des petits ajouts, sur la version PS5, notamment les manettes. La DualSense est mise à profit avec notamment les sons. Voilà. Alors les sons, tiens, ça, je vous fais une petite prévision. Bah, ça va devenir un nouveau motif d'engueulade dans les foyers à droite à gauche. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà, la manette qui fait du bruit. Donc c'est pas mal. Ça reprend pas mal de bruit du jeu.
C'est pas nouveau, ça. La PS4 le faisait déjà.
Ouais. Oui, mais elle le faisait pas bien, la PS4. La PS5, ça y est, ils font bien. Ils ont mis une génération à apprendre comment il fallait s'en servir. Et là, ça y est, maintenant, tous les jeux de PS5, ils le font bien, le bruit de la
manette. Tous les bruits de pas, tout ce que tu fais, maintenant, il y a un truc qui revient pour accompagner les vibrations et rendre le truc plus immersif.
Alors, les vibrations sont pas top dans Nioh 1 et Nioh 2. Les vibrations, un petit peu, elles ont pas été très bien exploitées. Et les gâchettes à retour de force, ça a le mérite d'exister, mais c'est pas ouf non plus. Voilà. Voilà. Donc
tu le conseilles. Quoi qu'il arrive, tu le conseilles.
Pas tout le monde.
Ah.
Pas tout le monde. Voilà. Ah. Je le conseille à un joueur qui vient de s'acheter une PS5, qui a bouclé Demon's Souls, qui vient de découvrir la joie des Souls-like. Cette personne-là, elle a forcément vu qu'elle a fini Demon's Souls, elle n'a plus rien à faire sur sa PS5. Là, elle peut jouer à Nioh. Elle peut acheter cette compile. Par contre, quelqu'un qui, comme moi, a déjà platiné le premier sur Play, qui a retourné le 2 en long, en large et en travers, ça vaut pas forcément le coup. Quelqu'un comme moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la mise à jour gratuite du 2, il va continuer à jouer au 2 sur PS5. Mais de là à acheter la compile, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Donc, pour les nouveaux venus, c'est génial. Franchement, vous avez deux jeux extraordinaires. Un tarif de lancement un petit peu élevé quand même, 80€, ça pique un peu. Mais bon, voilà. Si vous y avez jamais joué, il y a vraiment de quoi faire et vous aurez vraiment de quoi vous amuser. Par contre, si vous avez déjà fait la saga sur PS4, là, l'intérêt est beaucoup plus limité. Vous n'aurez que du 120 FPS et du 4K.
C'est voilà, comme la plupart des jeux PS4, donc c'est du confort supplémentaire.
C'est un confort supplémentaire. Est-ce que ça mérite de repasser à la caisse? Je ne pense pas. Surtout quand on va faire la version du 2, si vous l'aviez déjà, il suffit de faire la mise à jour gratuite pour aller faire son petit test. Voilà.
Eh ben, très bien. Bah, merci, Johnny, pour ton avis sur la Nioh Collection, donc avec Nioh et Nioh 2 Remastered. On va passer maintenant à un jeu récent. Voilà. On va arrêter d'aller dans le passé. De quoi, pardon, Johnny, tu dis?
Et je vais vous abandonner, moi.
Ah oui, c'est vrai. C'est toujours que tu partes avant, toi. J'oubliais. Ouais. Bon, bah écoute, Johnny, maintenant que tu vas trouver le bouton pour accrocher du premier coup.
Attends, je suis pas sûr.
Je te trouve très optimiste.
On va faire un petit salut. Et on te dit à très bientôt.
Ouais, je vous fais des bisous et je raccroche.
Bah pareil. Salut Johnny. Alors, le thème numéro 3 de la semaine, on vous l'avait dit, il y a deux jeux entre deux polémiques. Eh bien, le deuxième, c'est un jeu beaucoup plus récent. Il arrive là. C'est Little Nightmares 2. Alors, on se rappelle, Philippe, que le premier t'avait fait bonne impression, mais qu'il n'avait pas été... tu ne l'avais pas jugé fantastique. C'était un bon jeu. Il avait récolté la note de 7 sur 10 à l'époque. Et là, Little Nightmares 2, j'ai survolé le test, qui n'est pas encore... Si, il est disponible sur Gameblog au moment où on va être diffusé. Et là, y a un point de plus, mine de rien. C'est quand même quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il fait les choses mieux que le premier?
Non, c'est le petit chèque de Bandai Namco.
On me l'a
exactement. Fait pas à moi. Allez, vas-y, remets dans la machine, vas-y.
On va se retrouver en out of context dans pas longtemps. Et voilà, ça va être parfait.
RT Twitter, il n'y a pas de souci.
Non, mais moi, je vous connais... Je vous connais, les journalistes.
Garde ça pour le...
Les journalopes.
Pour le thème d'après, où là, on aurait parler un peu des journalistes. Oui. Donc, Little Nightmares 2, Philippe, jeu du studio Tarsien, un studio suédois, qui, donc, avec cette suite, comme je te le demandais, fait mieux.
Oui, clairement fait mieux. Alors, pour moi, déjà, 7 sur 10, c'est une bonne note. Hein.
Bien sûr, merci. Vraiment, le premier, personne n'a dit que c'était mauvais.
Dire, c'est dommage que Johnny soit parti, parce qu'il fallait qu'il entende ça.
Non. Alors oui, donc, je resitue un petit peu. Donc, Tarsier Studio, donc, c'est ceux, je crois qu'ils avaient bossé un petit peu sur... ils avaient aidé Media Molecule sur Little Big Planet. Donc, on retrouve toujours cette thématique. Donc, le Little Nightmares 2... premier du nom était sorti en 2017, si je ne m'abuse. Ouais. Il était suivi de 3 DLC qui étaient assez dispensables pour le coup. Et donc, dans cet épisode, on suivait Six, donc, qui est une petite gamine qui est, on va dire, enfermée dans une espèce de station balnéaire hyper glauque en plein milieu de la mer et qui essaye de s'échapper. Voilà. Et d'échapper aux résidents qui sont 20 à 30 fois plus grands qu'elle. Et donc là, avec ce Little Nightmares 2, donc on ne retrouve pas Six, enfin en tout cas pas tout de suite. Le jeu nous laisse contrôler un nouveau personnage, donc Mono, qui est un petit garçon avec un espèce de petit menton brun et un chapeau qui lui cache, dissimule le visage. Donc on se retrouve, le jeu commence alors qu'on est dans la forêt, donc on commence à avancer et petit à petit on rencontre une gamine qu'on avait qui se révélera être la gamine du premier, donc Six. Et voilà, tout le jeu va se dérouler comme ça. On va essayer de progresser et d'essayer d'échapper une nouvelle fois à des créatures, des espèces de créatures gigantesques comme ça qui essaient de nous attraper. Donc on va, vers la première heure du jeu, on va arriver dans une espèce de grande cité avec des immeubles démesurés et donc le but, alors au début on comprend pas trop le but du jeu, c'est-à-dire qu'on progresse, on arrive de tableau en tableau comme ça, comme dans le premier, et très vite on comprendra que l'objectif de Mono et de Six, c'est d'atteindre la tour du signal qui est au centre de la cité et qui en fait a l'air de... On commence à comprendre qu'elle plonge dans la léthargie de toute la cité. Voilà. Mmh. Et tous les résidents sont un peu possédés par cette tour. Voilà. Alors, en quoi cet épisode, je considère cet épisode meilleur. Alors, l'un des défauts du premier, ce que j'avais relevé à l'époque, c'est que le rythme était très maîtrisé, mais je trouvais qu'il se terminait un petit peu en... C'est-à-dire que tu avais vraiment l'impression que ça se coupait avant la fin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de véritable conclusion. C'est-à-dire qu'à la fin, bon, je vais spoiler un peu le premier, mais à la fin, tu as donc Six qui est arrivé à se défaire des résidents et à s'échapper. Et ça s'arrêtait comme ça et on n'avait pas vraiment de conclusion satisfaisante à l'aventure. Et donc là, cette fois-ci, tu as vraiment une vraie fin qui te permet de comprendre tous les enjeux scénaristiques de la série même, hein, en fait, avec... Donc, pourquoi Six est là, pourquoi Mono est là, on comprend tout ça à la fin du jeu. Alors, c'est toujours aussi beau, vraiment, la direction artistique. C'est vraiment la force de la série, du premier déjà, mais là, encore plus. Les environnements sont très variés. Il y a un vrai jeu, c'est ce que j'écris dans le test sur le cadrage. Il y a vraiment, la caméra ne cesse de s'éloigner pour montrer l'immensité des lieux traversés, en fait, quand on est dans des endroits beaucoup plus ouverts. Il y a beaucoup plus de lieux ouverts que dans le premier, d'ailleurs. La caméra s'éloigne vraiment et tu as le personnage qui devient tout petit. Donc, tu vois vraiment l'immensité des lieux. Et au contraire, quand tu traverses un conduit, tu as la caméra qui se rapproche vraiment des personnages. Et donc, toujours comme ça, ça sert à la mise en scène. Ça permet aussi, ça donne des indices sur la marche à suivre. Parfois, la caméra va se déplacer un petit peu sur le côté pour montrer un petit peu comment progresser. De manière générale,
est-ce que ça fait toujours flipper un petit peu ?
Alors, je sais pas si tu l'avais fait plus, mais disons que il n'y a pas de jumpscare, ce n'est pas des jeux à jumpscare, c'est vraiment des jeux à ambiance. C'est-à-dire que vraiment, tu es un peu glacé, c'est peut-être l'adjectif que j'ai beaucoup employé, tu es un peu glacé par le jeu, c'est très très glauque. Dès le début, par exemple, quand Mono se réveille dans la forêt, donc il commence à se déplacer et tu vois au loin, en arrière-plan, l'espèce de... d'amas de corps putréfiés assemblés dans une espèce de sac suspendu à un arbre. Enfin, c'est assez très très glauque. T'as des créatures très 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 étranges, mais t'as pas vraiment de moment de pure, enfin, de terreur absolue, quoi. C'est vraiment c'est malaisant. Désolé pour ce néologisme. De bout en bout, mais c'est pas un jeu d'horreur pur. C'est plutôt fantastique. Voilà.
Tu disais beaucoup de bien du sound design aussi dans ton test, en plus de la partie graphique et.
Alors, je sais plus si j'avais fait le test à l'époque du premier avec le casque. Je pense que oui, à mon avis, oui. Mais là, ouais, très clairement, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression, dès que tu bouges, dès que tu t'entends les. Alors, bon, c'est pas nouveau, c'est pas le seul jeu à le faire, mais tu entends le parquet grincer, tu entends des petits sons un peu étranges avec une petite. Alors, c'est pas des musiques, mais des petits sons qui viennent se superposer au bruitage, voilà. Donc non, c'est vraiment, c'est, en fait, c'est vraiment la force du jeu, c'est l'ambiance générale, les bruitages, la petite musique, la mélodie, alors qu'il n'y avait pas vraiment de sens dans le, enfin, qu'il n'y avait pas de signification particulière dans le premier, qui a une vraie signification, la mélodie qui est jouée dès l'écran titre. Puisque quand tu retrouves Six là pour la première fois, en fait, elle est en train de jouer, de tourner la manivelle d'une boîte à musique qu'on retrouvera par la suite. Alors je vais pas spoiler, hein, mais c'est assez important dans l'histoire du jeu. C'est un jeu qui, donc voilà, super ambiance, vraie conclusion cette fois. En termes de mécanique, c'est là où le bas blesse un tout petit peu. Alors je vais pas l'accabler non plus, hein. Disons que il y a une certaine lourdeur du personnage. Alors je pense que c'est aussi voulu, hein. C'est pour montrer la vulnérabilité. Alors si je veux l'excuser entre guillemets, c'est pour montrer la vulnérabilité du personnage. C'est-à-dire que t'as pas, c'est-à-dire que c'est vrai que quand tu, j'en parlais avec un pote récemment, mais quand tu commences Inside, par exemple, dès les premiers instants, t'as vraiment l'impression que, enfin, t'as un feeling qui est assez fou quand tu joues à Inside. Là, t'as vraiment une espèce de petite lourdeur dans les sauts. Je vais pas parler non plus de latence, mais voilà, il y a une certaine lourdeur dans les déplacements. Pareil, tu peux utiliser davantage d'objets que qu'avec Six dans le premier. C'est-à-dire que là, à un moment donné, tu peux contrôler une espèce de masse, un bâton pour déclencher des pièges au loin, une télécommande aussi. Alors, j'en ai pas parlé de l'usage de la télécommande parce que ça risquerait de spoiler un petit peu le scénario. Mais par exemple, pour l'utilisation de la masse, c'est vrai que comme le personnage est tout petit et tout frêle, et quand t'as des ennemis qui arrivent vers nous, il faut anticiper l'arrivée des ennemis parce que le petit garçon, en fait, il met un certain temps avant de lever la masse et de l'abattre sur les ennemis. Donc, c'est pas instantané. Donc, voilà, il faut apprendre à anticiper la chose. Donc, ça permet aussi de montrer la vulnérabilité des personnages. Mais voilà, au début, il y aura quelques ratés. Il faut un petit peu avoir la main
dedans.
La façon dont c'est des petites énigmes, j'imagine, à chaque fois des petits tableaux dans lesquels il faut résoudre.
Oui, voilà. Alors,
c'est assez bien amené, c'est assez intelligent.
Ouais, disons que je dirais que c'est un peu plus naturel encore que dans le premier. Bah, en fait, disons que dans le premier, comme on était vraiment dans un lieu clos, tu n'avais jamais de zone ouverte. Tu avais un petit peu ce côté maison poupée, en fait, que tu retrouves ici aussi, en fait. C'est vraiment, par exemple, quand tu arrives de la rue de la cité, tu rentres dans un immeuble abandonné. Et là, le plan va se resserrer et tu vas avoir des bords noirs, en fait, pour signifier que tu es dans une sorte de tableau, entre guillemets. Et effectivement, tu vas devoir résoudre certaines énigmes, alors qu'ils sont jamais très compliqués. Hein. Les deux Little Nightmares avec les DLC, ce sont des jeux qui sont assez simples, qui ne veulent pas, on va dire, frustrer le joueur. C'est-à-dire que vraiment, alors à 2-3 moments, tu as des petits éléments qui vont te compliquer la tâche, mais globalement, très vite, tu sais où il faut aller, comme tu as la caméra qui va se placer d'une certaine façon, tu sais que le joueur doit passer par là, tu as des petites traces sur le sol qui te disent « Ah bah là, je vais pouvoir tirer ça pour… » voilà. Donc, tu as plein d'indices visuels qui te permettent de savoir comment progresser. Et effectivement, tu voulais dire…
Oui, j'ai juste une petite question de la part d'un joueur ingénu, parce que tu parles pas mal de la continuité et surtout de la conclusion qu'amène cette suite. Pour quelqu'un qui aurait zappé le premier épisode, est-ce qu'on peut assez facilement rentrer justement dans Little Nightmares 2 et ne pas louper grand-chose en termes de scénario ?
Je dirais que oui, parce que même si... Disons qu'en fait, le premier jeu, pour dire vite fait les choses, montrait la perte d'humanité de Six. C'est-à-dire que Six est une gamine qui est. Alors, j'abordais un petit peu le sujet, dans le test de 2017, mais. Ce qui sous-tendait le jeu, en fait, c'était la thématique de la faim. D'ailleurs, le jeu a failli s'appeler Hunger. Le premier jeu, mais je crois pour des questions de droit par rapport à Hunger Games, je crois, ils n'ont pas pu l'appeler comme ça, enfin bref. Et donc ça traitait de ce sujet-là, et puis cette perte d'humanité du personnage qui, à chaque fois qu'elle mangeait une créature, devenait un peu démoniaque, donc voilà. Et donc, alors, si on a cette clé de lecture-là, ça permet de mieux comprendre le 2, mais très honnêtement, tu peux très facilement jouer au 2 sans... Tu peux très facilement jouer au 2 sans avoir fait le premier, ça pose pas de problème de ce point de vue-là.
Ok.
Donc voilà.
Très bien.
Bon. Mais bonne pioche. Je trouve qu'ils ont. C'est le premier, pour dire les choses simplement, c'est le premier en mieux. Et le premier, alors l'un des défauts du premier aussi, c'est que je trouvais qu'il était. Alors au-delà du fait qu'il se terminait un peu de manière abrupte, il était un peu court. C'est-à-dire que j'avais mis, je crois, 4 heures pour le terminer à l'époque. Je suis quelqu'un qui prend. Voilà, je prends assez mon temps en général. Et celui-ci, alors les développeurs parlaient d'un temps de jeu doublé. Moi, je partais plutôt sur 6 heures. Voilà. Donc, ce qui est durée de vie à peu près, enfin, idéale, je trouve, pour le genre. Hein. C'est comme, Inside, je crois que c'est 4 heures. Limbo, pareil. Enfin, voilà. Là, je trouve que c'est bien. On en a pour son argent. Voilà.
Bon, bah, très bien. Bah, écoute, je vais en rester sur on en a sur son argent et me ruer dessus à ce moment-là, puisque ça a l'air, encore une fois, vachement bien, avec une bonne ambiance et tout. Je me rappelle d'avoir fait un bout du premier où, quand on était dans une espèce de boucherie, on voyait les gens se transformer en saucisses. Ouais. Ça me faisait un peu peur, pour tout avouer. Bref. Donc, Little Nightmares 2, donc, qui arrive officiellement là, dans la semaine, si je ne m'abuse, le 12. Je ne sais
plus. Oui, c'est ça, dans la semaine, effectivement.
C'est jeudi 11. Donc sur PS4, PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, mais pas sur Switch.
Pas sur Switch ? Ah ouais, bah le jeu.
Ah bah c'est sur Switch. Ouais, c'est j'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'était pas sur Switch.
Il m'appelle suspense.
Évidemment. Voilà, il sort sur toutes ces plateformes et donc vous pourrez le retrouver jeudi 11 février. On va maintenant se tourner vers le dernier thème de ce podcast qui est le thème numéro 4. Donc vous l'aurez compris, et c'est encore une fois une polémique. Une polémique née d'un réalisateur qui pourtant a été plutôt discret jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas dire que Thomas Mahler était le game designer dont on parle régulièrement, que ce soit pour ses déclarations ou ses phrases ou autres. Mais là, Romain, Thomas Mahler, il est allé sur Resetera, il a vidé son sac, il avait des choses à dire, il en avait gros sur le cœur. Je dois avouer que personnellement, je n'ai pas trop compris pourquoi il s'y est mis maintenant d'un seul coup. Mais tu vas pouvoir nous expliquer la situation rapidement aussi.
Oui, alors Thomas Mahler, c'est le PDG de Moon Studios et accessoirement le réalisateur de Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisp. Donc, un créateur de jeu qui jouit d'une bonne réputation, dont les titres sont appréciés, mais qui visiblement n'est pas fan de la tournure que prend l'industrie du jeu vidéo en ce moment. Il n'est peut-être pas le seul dans ce cas-là, mais on va dire, je pense qu'il est le seul à l'exprimer de manière si publique et si directe, pour ne pas dire autre chose. Donc, Ce cher Thomas Mahler s'est connecté à son compte sur le forum Resetera et a fait tout simplement une tirade. Une tirade que je décrirais pas de borderline gamergatienne, mais presque. Dans lequel il reproche aux développeurs de jeux vidéo et à certains en particulier de tout simplement mentir sur ce que vont être leurs jeux et faire des promesses qu'ils ne parviennent pas à tenir et ensuite donc, de tout simplement tromper les joueurs et de tromper la presse qui elle-même est coupable de relayer ces promesses sans jamais les remettre en question. Et ensuite, il mentionne explicitement Peter Molineux, qui est, comment dire, le père fondateur de cette pratique, selon lui.
Pipoteur en chef.
Voilà. Et ensuite, Sean Murray, donc le créateur de No Man's Sky, à qui il reproche d'avoir repris les pratiques, repris à son compte les pratiques de Peter Molyneux. Et ensuite, c'est des Project Red avec Cyberpunk 2077 dans la foulée. Et donc, il reproche ensuite aux journalistes, dont Geoff Keighley, qui est mentionné explicitement, mais après les journalistes jeux vidéo dans leur ensemble, de relayer ces promesses de développeurs et ensuite de faire leur promo, alors que ces promesses-là ont de fortes chances de ne pas être respectées. Donc, il dit, en gros, pour utiliser des citations directes, il parle de menteurs, il parle de charlatans. Il dit que ces développeurs-là enculent, c'est pas mon mot, hein, c'est lui, enculent les joueurs, enculent la presse, et cause du tort aux autres développeurs par la suite. Évidemment, ça a fait parler, y compris directement sur Etc. dans les commentaires, où certains ne se sont pas empêchés de faire des reproches à Ori, aux deux jeux Ori, pour l'état dans lequel ils sortent en termes de framerate, etc., et de direction artistique, etc., entre les artworks et les jeux, etc. Bref.
Le deuxième a eu un petit souci à son lancement pendant quelques semaines, où effectivement il y avait des freezes signalés par pas mal de joueurs. Bon, après, aujourd'hui il va bien, hein, mais c'est vrai qu'il a eu des problèmes aussi à son lancement. Peut-être qu'il l'a oublié.
Oui. Alors, à titre strictement personnel, je suis une fois encore super partagé parce que d'un côté il pointe du doigt des choses, des problèmes qui existent vraiment dans l'industrie du jeu vidéo, mais à côté de ça je trouve qu'il crache un peu dans la soupe parce que ce qui provoque les problèmes dans Cyberpunk ou dans No Man's Sky, etc., sont des choses dont lui-même a pu profiter par le passé. Parce que tu vois, il parle des journalistes avec les fameux guillemets qui me sortent par les yeux. C'est l'attaque un peu bas du front, je trouve, pour la presse qui a souvent bon dos, en fait. On nous met un peu des problèmes sur le dos qui ne sont pas de notre fait. Lui-même a profité de ce système, c'est-à-dire les previews super encadrées où tu peux mentionner ça, mais tu ne peux pas mentionner ça, etc. Les interviews langue de bois où t'as beau poser des questions, on ne peut jamais répondre à rien parce que c'est secret défense. Lui-même a profité de ces trucs-là. Donc c'est facile après de remettre ça sur le dos de la presse et de dire « Oui, mais vous avez relayé ces trucs-là. » Mais sauf que nous, quand on nous envoie une preview et que dans la preview, on est limité à une heure de jeu sur un passage ultra délimité et que « Ah oui, il y a des bugs, mais ce n'est pas une version finale. » Donc s'il vous plaît, c'est si vous rencontrez des bugs, vous ne pouvez pas en parler parce que ce n'est pas représentatif du jeu final, etc. C'est pas forcément qu'on a envie…
On ne dit jamais de ne pas en parler des bugs. On nous dit pas de pas en parler, on nous dit juste ça sera corrigé ou c'est pas représentatif du jeu final. Et nous, dans notre expérience, on sait qu'il y a pas mal de jeux où quand il y a un ralentissement à un endroit, on n'est pas forcé de le retrouver dans la version finale quelques mois plus tard. Aussi.
Moi, je ne peux pas te citer d'exemple précis là, parce qu'on a signé tellement de NDA et fait tellement de previews au fil du temps que là, ça ne me revient pas. Mais moi, je me souviens clairement avoir lu, si vous rencontrez des bugs ou des trucs comme ça, non. Dans les previews, pas dans les tests, attention. Dans les previews, parce que sous prétexte que c'est pas représentatif du jeu final et que ça sera corrigé dans la version finale, il faut pas.
Un géant français du secteur, par exemple, est assez coutumier de la pratique.
J'ai aucun souvenir de ça dans les NDA que j'ai pu avoir. Je suis désolé, j'ai l'air un peu naïf et candide.
Pas de Romain, là, il y a pas de souci. J'ai eu plusieurs cas où effectivement ça s'est présenté, puisque comme c'est une version en cours de développement, ils estiment, l'éditeur, que ce n'est pas représentatif de la version finale et donc il ne faut pas le montrer.
Et donc tu vois, lui-même profite de ce système qui emprunt de secret défense et de confidentialité souvent exagérée. Et donc là maintenant c'est en partie de notre faute si on en est dans une situation comme celle de Cyberpunk 2077, parce que justement on n'a pas fait notre travail et qu'on n'a pas mis le revolver sur la tempe des éditeurs pour les obliger à cracher la vérité Enfin bref, c'est un peu facile.
Je voudrais juste revenir sur un coup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amertume vis-à-vis du journalisme, entre guillemets, comme il le dit comme ça, dans le texte qu'il avait lâché, parce qu'il parle à un moment d'un journal qui avait refusé de faire la une au dernier moment pour privilégier un autre gros jeu.
No Man's Sky, en l'occurrence.
No Man's Sky, voilà. Et j'ai l'impression que c'est une espèce de... Bah, regardez, aujourd'hui, mon jeu, il marche bien, donc c'est le moment où je peux dire qu'il y a des pratiques qui ne sont pas forcément très sympathiques vis-à-vis des indépendants ou des gens qui ne jouent pas sur la hype. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui l'a motivé, en plus de vouloir évidemment pointer du doigt des pratiques qui sont effectivement parfois un peu préjudiciables aussi bien pour les personnes qui font des promesses. Je suis désolé, hein, mais Peter Molyneux, il a quand même fait des grands jeux, et c'est surtout lui que ça fout dans la merde, et aujourd'hui je pense qu'il le paye. Et il y a eu pas mal d'interviews où il le disait, oui c'est vrai, j'ai raconté pas mal de merde. J'imagine aussi que pour des gens comme Sean Murray ou d'autres qui ont fait des promesses qu'ils n'ont pas réussi à tenir, ça, c'est surtout à eux que ça a joué des tours, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une façon pour lui de dire, ah voilà, bon, au moins j'y suis arrivé malgré les embûches qu'on aurait pu me faire, et que c'est la faute des journalistes parce qu'ils ne privilégient pas forcément la qualité comme ils devraient, ils ne donnent pas leur chance au produit. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment ça.
Le truc, c'est que dans son message original, il le dit clairement, hein, tu vois. Je cite, hein, j'ai le texte sous les yeux. Je me suis vraiment senti rouler dans la farine quand No Man's Sky est sorti. Et qu'il est apparu évident que toute cette hype avait été construite sur des mensonges, et que le type honnête, c'est lui, hein, qui s'était contenté de vraiment montrer son jeu, s'est pris un coup dans les couilles, car le menteur a été capable d'inventer une histoire fabriquée de toutes pièces. Donc en gros, lui, c'est le chevalier blanc, en fait. C'est le gentil développeur au jeu sans reproche possible, qui a été mis de côté au profit d'un jeu... plein de blabla et de hype qui n'était pas représentatif du vrai produit final.
Et il se fait peut-être aussi un petit peu le porte-parole de la scène indépendante en général. Alors là, c'est ce que moi je comprends aussi à travers ça, parce que il faut se rappeler que Mood Studio a pour l'instant deux jeux à son actif, donc Ori and the Blind Forest et The Will of the Wisps. La chance qu'ils ont eue, c'est d'avoir été rapidement édités par Microsoft. Ils ont été intégrés maintenant au Xbox Game Studios, etc. Donc il y a eu les choses se sont passées quand même assez vite pour Mood Studio, ce qui n'a pas eu non plus à galérer très longtemps pour connaître un succès et critique et commercial. Et derrière, on sent, moi je peux comprendre la frustration de la part de Malheur, parce que quelque part, lui, quand on voit en tout cas les deux produits finis qui sont sortis de chez eux, il y a des volontés artistiques très prononcées, assez pointues. Plume, tu as eu l'occasion de faire le deuxième épisode d'Ori il n'y a pas très longtemps. Il y a quand même des choses qui sont assez touchantes. Il y a énormément de travail derrière pour justement plonger le joueur dans un état quand même un petit peu particulier. Et je pense que cette démarche, avec de l'honnêteté, j'imagine, à un moment donné pendant le développement, versus les communiqués intempestifs tous azimuts de la part des plus gros acteurs de l'industrie, l'ont peut-être frustré à un moment donné, justement, et il y a comme un espèce de décalage, mais qui est malheureusement inhérent à la scène indépendante quelque part, parce que tu ne peux pas profiter du même appui et de la même machine de guerre, justement, pour communiquer. Et il y a une guerre véritablement de communication aujourd'hui. Il faut voir le nombre de demandes qu'on reçoit, les communiqués qui arrivent par dizaines tous les jours. Tout le monde essaye de tirer un petit peu son épingle du jeu, et je pense que c'est très compliqué pour la plupart des acteurs de l'industrie qui se font, dans les faits, bouffer par les plus gros.
Philippe, tu voulais réagir?
Oui, non, pour continuer sur la thématique de la frustration, et pour le coup, je suis sur le fond, Romain, je suis totalement, enfin, je suis d'accord avec toi, et vraiment, je te rejoins là-dessus, mais la première réaction que j'ai eue quand j'ai lu la news que tu avais rédigée sur le site, c'est que je me suis dit, malgré tout, sur la forme, c'est rafraîchissant, tu vois. Parce que c'est pas souvent qu'on a des développeurs qui se permettent de s'exprimer aussi ouvertement et aussi... Bon, ils sont peut-être pas obligés d'être aussi vulgaires, tu vois, mais voilà, d'exprimer aussi frontalement leur frustration... à la presse. Alors, je sais plus où est-ce que tu disais qu'il s'est exprimé, c'est dans une interview, tu disais...
Non, c'est un poste de forum.
Non, c'était
en fait.
sur
un poste de forum.
Okay. C'est l'initiative, elle est de lui, quoi, en fait.
Ouais.
Il y a été comme ça.
Mais du coup, je trouve ça assez rafraîchissant en fait. Que là, je parle juste en termes de forme. Que enfin, il y en a pas beaucoup des développeurs qui se permettent. Alors, je disais en rigolant en commentaire, t'as Joseph Fares. Bon, même si on commence à le connaître un petit peu le
oui,
gars,
mais bon, Fares, c'est un style assez différent. Il va pas, oui. Il va pas aller tirer à boulet rouge comme ça sur des confrères. Enfin, tu vois, il va dire des conneries. Mais oui, mais c'est plus pour amuser la galerie.
Oui, c'est un troubillon, voilà.
Mais... pour dénoncer vraiment quelque chose.
Il y a Bouffi qui vient d'imploser au passage. Ouais.
Non, mais je pense que Fares, oui, voilà, c'est vraiment juste pour dire ce qu'il pense, mais ça reste toujours assez léger. Là, malheur, c'est quand même extrêmement violent ce qu'il raconte.
Le fuck you au Game Awards, il était adressé à qui
Aux Oscars.
Ouais, mais encore une fois, c'est...
Il prend pas trop de risques en faisant ça. Quoi.
C'est la blague. Ouais. Voilà. Ouais. Je pense pas que l'académie va lui envoyer un tueur à gage.
Ouais. Est-ce que c'est pas dramatique justement qu'on ait si peu de spontanéité? Parce que moi, je rejoins Philippe là-dessus. Finalement, ce qu'il dit, c'est un peu dire tout haut ce que pas mal de gens pensent tout bas, y compris dans l'industrie. Et c'est presque, moi, ça me pose presque problème. Qui est si peu de prise de parole assez libre. Alors, on n'est pas obligé d'être insultant. Il y a plein d'autres manières de faire part de sa frustration, de son mécontentement, de manière sans doute un petit peu plus constructive. Lui, on sent qu'il en avait gros sur la patate. Mais c'est tellement dommage que tout soit tellement verrouillé, justement, par la communication, qu'il n'y ait plus de prise de parole aussi libre. Et en fait, ça devrait être presque normal. Et même des réalisateurs ou des PDG comme lui ne devraient pas avoir à tout le temps se contrôler systématiquement sur ce qui est livré à la presse, donné en interview, et avoir peut-être merde un peu plus de liberté justement dans ses paroles.
Bah, s'ils en avaient un peu plus, peut-être qu'il y aurait moins d'explosions comme là, quoi. C'est-à-dire que s'ils pouvaient parler comme ça. Bon.
Mais ce que je disais dans la news de base, c'est que je suis d'accord aussi avec vous. Je trouve ça très rafraîchissant et très plaisant qu'on ait un peu de franc-parler chez un développeur. J'ai été un peu piqué vis-à-vis des attaques de la presse, parce que encore, je trouve qu'on a bon dos et qu'on n'est pas vraiment. C'est pas nous le fond du problème.
Mais il faut pas l'écarter non plus d'un revers de la main, tu vois.
Il faut savoir, par exemple, quelqu'un sur Resetera répondait, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'industrie hein, sur ce forum, répondait à ce topic-là et expliquait qu'il travaille pour un studio, je ne sais plus lequel, il disait que systématiquement, à partir du moment où ils savent qu'un développeur, il prenait l'exemple sur son studio, à partir du moment où un développeur va être amené à répondre à des interviews, il a media training, séance de media training obligatoire. Donc media training, c'est vous passez devant un communicant qui peut être soit un expert en relations presse, soit un ancien journaliste lui-même qui sait le type de questions et de comportements que peut avoir un journaliste, et donc il vous prépare et il vous donne des clés avec des éléments de langage, des manières de répondre, etc., qui permettent de faire face à ces interviews sans prendre de risques, sans révéler trop de choses, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'on a des interviews aseptisées généralement, où les développeurs répondent un peu toujours de la même manière ou ne répondent pas aux questions, etc. Et c'est pour ça que nous, au sein du milieu, on a des private jokes du genre « What about the DLC ?»« What about the multiplayer ?» parce qu'il y a des interviews où tu sais que tu tireras pas grand-chose de plus qu'un communiqué.
Et au contraire, quand justement, sur un moment d'égarement, parce que les interviews, des fois, ça s'enchaîne toute la journée, du matin au soir, pendant plusieurs jours. Moi, j'ai le souvenir à la dernière Gamescom, justement, d'une interview où le réalisateur lâche par mégarde, mais quasiment rien. C'était vraiment une toute petite info, mais dans la seconde, tu vois qu'il se mord les lèvres, et dans sa tête, tu entends sa voix intérieure qui se dit « Putain, il fallait pas que je dise ça », et le mec, du coup, est un peu coupé dans son élan, et il sait qu'il y aura derrière un petit peu de répercussions, et c'est quand même dommage, parce que avec tout cet entraînement dont tu parlais, le media training, on perd vraiment en spontanéité au niveau de la discussion, et c'est presque terrible. Et je finis juste là-dessus, Philippe, avant de te redonner la parole. Il y a pas longtemps, Julo et Angèle étaient invités dans un podcast et parlaient justement de l'époque où ils pouvaient être directement, à l'époque de la presse papier, en contact avec les studios et pas par le biais de communicants, il n'y avait pas d'intermédiaire. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça doit être libérateur et intéressant justement de pouvoir aller directement au fond des choses et pas faire des ronds de jambes et aborder les points qui doivent l'être parce que le plan de communication l'a décidé. C'est terrible en fait d'en arriver là quelque part. C'est inhérent à l'industrie parce qu'elle pèse aujourd'hui des milliards, mais...
C'est inhérent à tous les divertissements aujourd'hui. Hein. Je veux dire que tu parles de cinéma, pareil, média training à fond, on essaye de contrôler tout ce qu'on va dire. Le football, mon vieux, mais l'important, c'est les trois points. on prend les matchs les uns après les autres. Enfin, tu vois, mais laisse tomber. Le sport, mais je pense que le basket, c'est exactement la même chose. Et je n'ose même pas parler de tous les autres. Mais le sport, c'est un truc qui est tellement encadré où les gamins, de toute façon, les gamins, ils sont obligés d'être médiatrainés parce que sinon, leur carrière, elle est foutue parce qu'ils vont dire de la merde ou autre. Donc, c'est comme ça partout, quoi.
Philippe. Dès qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, en fait, plus il y a de l'argent en jeu, plus c'est,
plus c'est contrôlé.
Mais j'allais juste te dire qu'en fait, on revient au sujet du fail de tout à l'heure, là, de Takara Yamaoka. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est vraiment lui qui a demandé à ce que l'interview soit retirée.
Après, je peux pas vous donner le nombre de cas où j'ai fait des interviews sur des salons ou sur des events que j'ai même pas pris la peine de traduire par la suite parce que c'était sans intérêt. Parce que c'est ça qui est paradoxal, c'est que les éditeurs savent que les interviews ont de grandes chances de ne pas être intéressantes, mais ils veulent nous en donner à chaque fois. C'est quasiment parfois condition sine qua non d'avoir une preview d'un jeu, c'est sur un salon, je parle, hein, si vous avez l'interview juste après. Mais histoire de donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le fonctionnement du milieu, etc., je vais vous donner trois exemples de quatre figures différentes. Premier exemple, interview pour un jeu WWE, donc pas la thématique la plus touchy, etc., au monde, etc. Je pose mes questions et je les enchaîne. C'était un mec de chez 2K, mais je me rappelle plus de son poste, mais un mec assez important. Je pose mes questions et il y répond pas. Il répond à côté à chaque fois, il me fait ses phrases toutes faites, bêtes et méchantes de ses communiqués, etc. Donc, une, deux, trois questions. Et au bout d'un moment, je lui ai dit cash. Je lui ai dit juste pour savoir, est-ce qu'au bout d'un moment, vous allez répondre à une de mes questions ou est-ce que vous allez continuer d'esquiver à chaque fois? Et pourtant, c'était pas des trucs touchy qui allaient faire un boxon monstre. Je lui demandais pas la date de sortie des futures consoles, etc. Tu vois, c'était pas du tout un truc de cet ordre d'idée-là. Est-ce que vous allez finir par répondre à mes questions ou pas? Et là, il me regarde. Il me fait un rictus comme ça. Et il me regarde et il fait. Avec sa main. Donc là, si vous avez la vidéo, vous le verrez. Il me regarde et il me fait. Comme ça. Genre, en gros, je te prends pour un con et j'évite tes questions avec mon habileté. J'ai fait OK. Ouais. Donc après l'interview, j'ai coupé court assez rapidement à l'interview. Et j'ai dit à l'attaché de presse, lui, je ne veux plus jamais l'avoir en interview parce que ça faisait déjà deux ou trois fois que je l'avais. Donc lui, c'est fini. Il me prend pour un idiot. Donc voilà, c'est fini. Depuis, je le vois quand je vais à des events au jeu de catch, il est souvent là.
Et il te refait le geste de la main?
Non. Je l'ignore. Et ils savent ne plus me proposer d'interview. Deuxième cas de figure. Je vais chez NetherRealm à Chicago pour preview d'Injustice 2. Et donc là, j'ai la chance d'interviewer Ed Boon. Donc là, c'est pas genre n'importe quel petit, entre guillemets, programmeur ou quoi que ce soit. C'est une personnalité qui est dans le milieu depuis très longtemps, qui est liée à des moments forts de l'histoire du jeu vidéo. Et donc, dans ma tête, je me dis, déjà, Ed Boon, je l'ai pas en interview tous les 4 matins. L'interview, c'est sur Injustice 2, mais Injustice 2, ils viennent de l'annoncer. On a eu une démo qui est genre limitée à 2 personnages sur 1 heure de jeu, etc. Je sais très bien, par habitude, qu'il y a beaucoup de choses dont il ne va pas pouvoir me parler. Donc, je me suis dit, profitons de cette occasion. C'était genre les 20-25 ans de Mortal Kombat qui tombaient plus ou moins en même temps. Je me suis dit, je vais lui reparler de sa carrière, je vais lui parler de Mortal Kombat, de moments forts, genre les polémiques face au Sénat américain, etc., sur la violence dans les jeux vidéo. Je me suis dit... Je vais faire des questions un peu comme ça pour essayer d'avoir un truc plus intéressant sur l'ensemble, etc. Et donc là, on va dans une petite pièce, je suis face à Ed Boon et à côté de nous, juste à droite, il y a l'attaché de presse qui surveille. Parce que ça aussi, c'est un truc très agréable pendant les interviews, c'est quand vous avez l'attaché de presse sur son ordinateur portable qui pianote pendant toute l'interview. Et donc ça, c'est génial, j'adore.
Et parfois plusieurs observateurs à ses côtés.
Parfois plusieurs observateurs. Et donc là, je pose des questions et je commence à poser mes questions et j'entends au fur et à mesure, Ed Boon était prêt à parler. Pour le coup, il était assez tranquille. J'entends l'attaché de presse qui fait des bruits avec sa bouche quand je pose mes questions. Comme ça. Et genre, et au bout d'un moment, pose une question, je me souviens plus laquelle, et là, c'est elle qui coupe la parole et fait well, no. Donc ça, ça veut dire il n'a pas le droit de répondre à ça, alors que c'était pas du tout touchy, etc. Ok, je passe, et elle me l'a fait deux ou trois fois. Donc heureusement, l'interview était quand même exploitable sur l'ensemble, parce que Ed Boon avait parlé sur d'autres choses, mais en gros, il y a des, voilà, des sujets, même quand c'est pas trop touchy, c'est no way, c'est, on peut pas parler de ça. Troisième exemple d'un cas de figure encore différent, plus récent cette fois, c'était pour le remake de Resident Evil 3. Donc c'est, je pense d'ailleurs que c'est peut-être le dernier press tour que j'ai fait avant que la pandémie commence et qu'on n'ait plus le droit de bouger. Donc on était à Londres. Et là, j'interview Peter Fabiano, qui est producteur américain, mais qui travaille chez Capcom Osaka directement dans les studios. Et d'ailleurs, il était dans le dernier Resident Evil Showcase. Enfin, c'est quelqu'un qu'on voit assez fréquemment dans les vidéos. Donc, je fais mon interview. Et là, c'est pareil, pas du tout sujet touchy, etc. Je parle de Julia Voss, qui était la comédienne qui prêtait ses traits à Jill Valentine avant le remake, justement, où ils ont changé de comédienne. Et donc, je voulais savoir pourquoi ils ont changé de comédienne, etc. Donc, je pose ma question. Il esquive totalement. Il répond, mais tellement à côté. Et donc je continue, je pose une autre question, pareil, il esquive. Et bon, voilà, tu vois, j'ai même pas fait de remarque, j'ai fini mon interview et j'ai arrêté. Et là c'était une première, l'attaché de presse de Capcom reçoit un SMS plus tard dans la journée pour dire que j'avais été belligérant, j'avais eu une attitude belligérante pendant l'interview.
Belliqueux chez nous, hein? Belliqueux en français.
Oui, belliqueux, pardon. Ouais.
En anglais, belligerent, si tu veux.
Mais... J'avais été belliqueux, oui, c'est un faux ami. Ouais. J'avais été donc agressif, belliqueux, ouais, pendant mon interview. Alors là, l'attaché de presse, qui me connaît bien en plus, il m'a limite montré le SMS, tu vois, il me l'a lu, alors que je ne sais pas s'il était censé garder ça pour lui ou pas. Et il me dit, ah bon, enfin, je lui dis, bah non, pas du tout. Et là, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et c'est, ça vous montre à quel point... On nous propose des interviews, mais il faut dire, oui, alors, de quoi parle le jeu, quelles sont les nouveautés de gameplay, qu'on vient de nous détailler 5 minutes avant pendant la session de Hands-On. Et donc, en fait, il faut ressasser uniquement ce qu'on nous demande de ressasser. Et donc, c'est fatigant. Vous voyez, là, je vous ai donné 3-4 figures différentes de choses qui peuvent se passer en interview. Donc après, quand ce cher Thomas Mahler jette la faute un peu sur la presse, je trouve ça un peu
ça. Il dit pas que ça non plus.
Non, il dit pas non.
Bien sûr que non.
Je me suis un peu focalisé là-dessus parce que ça me touche directement, tu vois, mais c'est pas si simple que ça.
Je repense très rapidement au sujet de la semaine dernière où on parlait justement de Stadia et notamment du cas Phil Harrison, entre autres. Je pense qu'il y a aussi derrière peut-être cette frustration de voir des grands acteurs, et ici Tim Molineux parmi tant d'autres, faire des bêtises, se planter ou bullshiter sur pas mal de choses. Et toujours s'en sortir, mine de rien, à retomber sur leurs pattes et à finalement ne jamais avoir à faire face aux conséquences de leurs mauvaises décisions. Il y a peut-être aussi, quelque part, cette frustration chez lui. Enfin, on sent qu'il y a une accumulation de plein de choses. Après, voilà, c'est dommage que ça sorte sous cette forme-là, c'est-à-dire de manière un petit peu injurieuse, parce que voilà, tu viens de le rappeler avec tout un tas d'exemples, ça fait tellement du bien d'avoir une prise de parole qui soit un petit peu plus libre, un petit peu en dehors, justement, du media training. Et là, vu que ça a créé une espèce de mini-polémique, voilà, le mec a été un petit peu honnête, du coup ça ne plaît pas dans un milieu qui est quand même assez, assez formaté, on risque peut-être pas d'avoir un équivalent avec un autre réalisateur ou tête pensante d'un studio, et c'est quand même assez dommage parce que ça fait du bien quelque part, surtout pour nous qui sommes habitués, justement.
Moi, il y a une question, c'est le timing, c'est pourquoi il en parle maintenant, c'est ça le...
C'est Cyberpunk.
Cyberpunk, ça a été la
même chose. Ça fait quelques semaines quand même, hein, pour Cyberpunk. Je pense qu'il y a un moment où il faut en revenir, mais bon, c'est bon. Je me disais que le timing n'était peut-être pas forcément idéal pour ça. Il aurait pu s'exprimer à l'époque où No Man's Sky sortait, à l'époque où chacun des jeux sortait à chaque fois.
On n'a pas tous la même goutte d'eau. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui nous déclenchent parfois. Ça déclencherait pas d'autres personnes.
Il est peut-être dans une position aujourd'hui qui lui permet peut-être un tout petit peu plus facilement de se permettre justement ce genre de sortie.
À ce niveau-là, il y a un passage de son texte initial que je voulais souligner. Il dit, je sais que tout ce message va peut-être donner l'impression que je suis amer, un petit peu, et que certains vont trouver que je chie sur d'autres développeurs. Mais ce n'est pas ce que je fais. Je chie sur les menteurs et les gens qui ne voient pas de problème avec le fait de tromper ouvertement les autres. Je pense que nous devrions tous être d'accord avec le fait que ce n'est pas tolérable. C'est vrai, et ça se situe à plein de niveaux. Il y a les bullshots, ce qu'on appelle les bullshots, donc ce sont les screenshots qu'on nous montre en début d'annonce de projet et qui ne reflètent pas du tout la qualité visuelle, par exemple, d'un jeu une fois sorti. Mais donc, tu vois, il parce que la confraternité, c'est quand même quelque chose d'assez important, normalement dans la presse aussi, mais en France, visiblement, la confraternité, c'est une thématique.
Aux States aussi. Hein.
Elle a ses limites aussi. Hein.
T'inquiète pas, hein. Jason Schreier, il aime bien allumer 2-3 personnes aussi.
Ça dépend desquelles. Mais... Et donc, tu vois, il insiste sur le fait que ce n'est pas une attaque envers les développeurs d'une manière générale, mais juste avec des cas de figure assez particuliers. Et donc, après, dans la foulée, il a fait un deuxième message. Évidemment, quelques heures après, un message d'excuse, comme on pouvait s'y attendre, parce que j'imagine que aussi bien ses associés chez Moon Studio que potentiellement Microsoft, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui lui sont tombées dessus dans les heures qui ont suivi la publication de ce message. Il dit qu'il a eu une longue discussion en interne chez Moon Studio, etc. J'aurais aimé être la souris dans la pièce pour cette discussion. Et donc, en gros, il dit dans son message d'excuse qu'il ne remet pas en cause le fond de son message, c'est-à-dire les déclarations trompeuses, etc., etc., mais sa manière de le faire. Et surtout, j'essaye de retrouver. En gros, il dit que c'était pas la bonne forme et pas le bon endroit pour faire ce genre de déclaration. Mais en réfléchissant à ça, quel est le bon endroit ? Aucun développeur parle comme ça en interview. Et je peux vous dire que ce bon Thomas Mahler, il va certainement avoir le droit à des sessions de média training corsées, alors qu'en plus là c'était même pas une interview, c'est juste lui qui a pris la parole. Mais je serais curieux de lire les prochaines interviews qu'il fera, parce que je pense que des gens vont lui poser des questions là-dessus, et donc là il va représenter ses excuses, etc. Mais je pense que les prochaines interventions publiques de Thomas Mahler, ça va certainement être très 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 cadré. Et en plus, il présente ses excuses aux personnes qu'il a nommées explicitement, donc Peter Molineux, Sean Murray, CD Projekt Red et Geoff Keighley. Mais d'un côté, je me dis qu'en 24 heures, il n'a pas changé d'opinion, tu vois. C'est comme quand tu fais une vanne super méchante à quelqu'un et que la personne est blessée et que tu lui dis 2 secondes après « Non, mais je rigole !» Non, mais ton truc, tu ne l'as pas sorti nulle part, tu vois. Si tu as dit ça, c'est parce que tu le pensais et c'était ton opinion. Donc là, on a eu un coup de projecteur direct sur la manière de penser et de voir les choses qu'a Thomas Mahler. Moi, pour moi, ces excuses, c'est juste sur la forme parce qu'on lui a demandé de le faire, tu vois. Ça change pas son opinion.
Ah bah c'est probablement, peut-être que c'est Private Division, hein, parce que c'est quand même... le label qui va s'occuper d'éditer leur prochain jeu, qui est un action RPG qui s'annonce vachement ambitieux, peut-être que c'est eux qui ont estimé que ça pouvait peut-être entacher un peu la réputation du label qui appartient à Take-Two, et que c'est peut-être eux qui sont intervenus, je pense.
Ils s'excusent pas d'ailleurs, ils présentent pas ses excuses à la presse. Bon, après c'était le détail sur lequel je me suis focalisé, mais c'était vraiment pas le fond du sujet. Mais il dit, j'ai utilisé un ton exagérément agressif, c'est pas faux, qui ne convient pas vraiment à quelqu'un occupant ma position. Voilà, ça c'est un truc qui est important de souligner, qui ne correspond pas à quelqu'un occupant ma position. PDG de Moon Studios, développeur de premier plan, etc. Mes intentions n'étaient clairement pas de nuire à qui que ce soit, mais de lancer une discussion à propos des problèmes auxquels l'industrie fait face actuellement. Il a pas tort, et c'est vrai,
on est tous d'accord
là-dessus. Mais si lui le fait pas, nous on va continuer de dire qu'il y a des problèmes, etc. Ça sert à rien. Des gens dans l'industrie, des développeurs de premier plan comme lui qui pointent du doigt ces problèmes et qui soulignent les comportements un peu, on va dire, moyen de ses confrères, personne le fait. Et je pense qu'après cette polémique là, enfin, avant que quelqu'un le refasse, c'est pas pour demain. Donc,
ou alors il faudra que ce soit un ex, un mec qui a quitté l'industrie pour faire autre chose et qui du coup retrouve une certaine liberté de parole.
Mais il faut que ça soit quelqu'un d'important, parce que si c'est juste un ancien développeur d'un petit studio que personne ne connaît de nom, etc., ou dont les jeux n'étaient pas forcément super importants, ça n'aura pas d'impact. Donc quelle est la solution à ce problème? Comment faire pour lancer un débat qui aura un impact et qui aura vraiment des conséquences? Parce qu'on a bien vu que quand les éditeurs, particulièrement sur les triple A, voire quadruple A, quand ils ont décidé de nous balader, ils nous baladent. Tu vois, c'est il n'y a pas de solution miracle. Comment faire, quoi? C'est ça. Et le problème, c'est qu'en plus, quand quelqu'un du milieu côté développeur s'exprime comme lui l'a fait, bah, tout de suite, ça lui retombe dessus. J'ose même pas imaginer les problèmes qu'il a eu dans les heures qui ont suivi la publication de son message. Tu vois, c'est que et ce qui s'est passé là, ça va pas donner envie à d'autres de le faire.
Alors de parler. Ouais.
Ah ouais, c'est tout un problème. C'est Je pense que le truc sur lequel il met le doigt, c'est l'enthousiasme qu'on peut avoir par rapport à certains jeux. Ça voudrait dire qu'on ne devrait plus s'enthousiasmer pour rien. Si on devait vraiment résumer le truc, c'est ne plus croire personne, ne plus s'enthousiasmer sur rien.
Être vigilant.
Voilà, mais ça serait de la vigilance peut-être à outrance.
Oui, mais là, tu caricatures à l'extrême.
Ah, complètement, complètement. Mais c'est fait exprès.
Nous enthousiasmer quand ça paraît crédible. Après, c'est vrai qu'avec le temps, aussi bien la presse que le public, on arrive un peu mieux à lire dans le jeu des éditeurs. Par exemple, on se souvient, il y a quasiment 10 ans maintenant, le trailer d'annonce du premier Watch Dogs, en termes de réal, etc., comparativement à ce qu'était le jeu final, à l'époque, c'était passé comme une lettre à la poste. Je pense que maintenant, un cas similaire, on en douterait un peu plus. Ou alors le trailer de Killzone, Killzone 2, le fameux trailer E3 2005 qui était tellement impensable sur une PS3 d'avoir un rendu tel que celui-là. Ce genre de choses, ça passerait un peu moins. Mais tu vois, à côté de ça, on essaye en permanence de nous tromper. À l'E3, quand on nous fait soi-disant, pendant les conférences, des démos gameplay en temps réel, alors qu'on sait clairement que le mec n'est pas en train de jouer. Parce qu'après, quand on va en behind closed doors, on nous refait exactement la même démo avec les mêmes actions au même moment et le mec qui bouge les joysticks derrière en faisant semblant de jouer au fond de la pièce. C'est paradoxal, parce qu'on essaye quand même de nous rouler dans la farine assez fréquemment.
Mais c'est aussi le seul moyen d'accéder au jeu.
Voilà.
Donc c'est une équation assez compliquée à résoudre.
Ouais, ça fait mal au crâne tout ça.
Mais c'est loin d'être aussi simple, aussi bien pour eux que pour nous, que certains veulent bien le croire. Parce que des fois, tu fais des interviews, tu dis ouais, mais pourquoi t'as pas demandé ça? Pourquoi t'as pas demandé ça, etc. Pourquoi t'as pas parlé de ça? Qu'est-ce qui te dit déjà d'une que je l'ai pas fait et que quand j'ai dit, on m'a dit no comment ou ça, enfin. C'est pas aussi simple que ça. Tu sais, c'est comme quand ils annoncent un nouveau jeu DBZ. Ah oui, ben pourquoi t'as pas demandé combien il y aura de personnages au final? Parce que tu crois sincèrement que s'ils nous ont montré une démo avec 4 personnages, ils vont nous dire ah bah oui, il y aura 36 personnages dans le jeu, il y aura lui. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je suis désolé.
C'est vrai. Bon, en tout cas, on rappellera quand même aux développeurs que vous pouvez nous parler quand vous voulez. Hein. Si vous avez envie de causer, nous on est là, on est au bar du coin, vous venez et puis bah, on parle.
Un peu de sincérité, ça fait du bien. Et je pense que si la communication était un peu moins verrouillée qu'elle l'est actuellement, on ne se retrouverait pas avec des pétages de câbles comme celui de Thomas Mahler.
Tout à fait.
C'est vrai. Bon, j'en profite pour faire un bisou à Joseph Fares parce que je l'aime bien. Et que je l'ai eu il n'y a pas longtemps et que c'était un plaisir.
Tu peux ressortir ta photo.
Et Thomas Mahler, si vous voulez intervenir, un de ces quatre. Je crois que vous aviez déjà été interviewé par Julo, il me semble, à l'époque du premier Ori. N'hésitez pas.
Ah, c'est pour ça qu'il n'est pas revenu.
Ouais, c'est peut-être pour ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour des gros moments de l'actu de la semaine, tous ensemble. On a parlé, évidemment, comme on vous le disait, de Mass Effect, de Nioh, de Little Nightmares, et là, du président de Moon Studio, donc, et de son coup de gueule, suivi d'excuses. C'est terminé, du coup, pour le podcast de la rédaction. Merci Thomas, merci Philippe.
Eh oui,
merci,
ça
Romain.
C'est la classe.
Merci Johnny Wan. Qui nous a quittés, voilà, c'est comme ça, qui part toujours un petit peu en avance. Merci Poufi à la Réal, comme d'habitude, et merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre podcast. D'ici là, n'oubliez pas de vous laver les mains, voilà, et de mettre un masque, et pas sous le nez, pas sous le menton, toutes ces choses-là, quoi. Et on attend le vaccin. Allez, bisous, ciao.
Ciao.
Salut.